Bonjour à tous, toute l'équipe du Midi BFM est très heureuse de vous accueillir. Bonjour Roselyne.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
On salue Laurent Neumann bien évidemment, Marc et puis Gaëtan Mélin qui va nous rejoindre dans quelques instants. Trois grands rendez-vous dans le Midi BFM. Roselyne, d'abord le choc à Poma. Poma dans l'eau, 39 blessés, 2 dans un état grave après le passage d'une tornade vraiment exceptionnelle.
300 maisons endommagées ou complètement détruites dans un village de 1000 habitants, c'est considérable. Les envoyés spéciaux de BFM TV nous raconteront ça dans un instant. La France doit-elle se faire aux tornades XXL? Pourquoi réunit-elle tous les facteurs de risque? Peut-on anticiper ces tornades? Les réponses dans le Midi BFM avec notamment Jean-Wilfried Forquet.
Un autre titre de l'actualité, la chasse aux riches patrimoines, aux ultra-riches, qui est de toute évidence ouverte. La chasse aux nuisibles, si l'on reprend les mots de Manon Aubry pour LFI. On va en parler avec Laurent Neumann et on va aussi prendre au mot Raphaël Glucksmann.
Pris au mot, nouveau rendez-vous du Midi BFM. Hein, Raphaël Glucksmann qui propose un effort fiscal sur les très hauts patrimoines et les grands groupes pour contrer leurs optimisations fiscales. Tout ça, ça générerait 15 milliards d'euros par an. Quel impact réel pour les finances publiques, hein, cette histoire de méga héritage? Quelles conséquences aussi pour ces ultra-riches? Pris au mot, c'est à 13h15.
Ce sera l'un des rendez-vous du Midi BFM, la deuxième sortie dans l'espace de Sophie Adnaud pour finir le travail entamé la semaine dernière. Édition spéciale à partir de 14h15 et puis on fera le point sur le travail qui n'a pas tout à fait été fini aux alentours de 13h25. Mais d'abord, donc, le département de l'Aude, Roselyne, difficile d'imaginer ce qu'ont vécu les 1000 habitants de Poma, donc dans ce département, c'était peu après 17h02, puisque la pendule municipale s'est arrêtée à cette heure-là. Il y a 39 blessés, dont 2 dans un état grave.
Et voilà à quoi ressemble Poma en cette mi-journée. Vous allez voir l'ampleur des dégâts. C'est tellement considérable qu'une partie du village n'est même plus accessible. Et voici ce qu'a vécu cet habitant qui, dans un geste désespéré, essaie de soutenir sa baie vitrée qui menace d'être pulvérisée. Séquence incroyable, il est en bonne santé, heureusement. C'était pour essayer de contrer la force de ces vents absolument incroyables. On verra ça avec Marc dans un instant. Plus de 200 km/h sans doute.
L'un des envoyés spéciaux de BFM TV tout de suite, Jean-Wilfried Forquès, avec des sinistrés qui ont toujours du mal à réaliser ce qu'ils ont vécu aux alentours de 17h hier.
Oui, c'est ça. Bonjour à tous les deux. Ils sont KO debout. C'est le jour d'après. Ils sont KO debout. C'est 1000 habitants de cette commune. Rendez-vous compte, 300 habitations qui ont été littéralement dévastées, baies vitrées pulvérisées et toitures littéralement envolées. Jean-Baptiste Margotta, qui est avec moi, vous montre notamment cette poutre qui a volé un éclat. Et la toiture, regardez où elle est. La toiture, elle est partie ici. Et des exemples comme celui-là, en image, il y en a des dizaines, des centaines, ici, sur place, à la mi-journée, dans cette commune de Poma, qui est traumatisée à la mi-journée. C'est la première fois qu'elle subit un choc d'une telle intensité. Rendez-vous compte, hier, effectivement, à 17h02, la pendule s'est arrêtée ici, la pendule de la commune. Elle s'est arrêtée après cette tornade qui a duré quelques minutes. Personne n'est vraiment capable de vous dire si elle a duré 2, 3, 4, 6 minutes, en tout cas. Pour les gens, c'était une éternité, c'était impensable. Et pourtant, ça s'est produit. Les dégâts sont considérables, je vous le disais. Regardez, on est à pied d'œuvre. C'est un chantier XXL aujourd'hui à la mi-journée. Il faut absolument tout réparer. Il y a des pompiers, des sapeurs-pompiers qui sont sur le toit. Ils ont l'habitude de ce genre de mission. Et puis, il y a depuis ce matin des opérations de sécurisation, de mise en sécurité des maisons qui sont réalisées par des pompiers qui viennent de 7 départements à proximité de celui de l'Aude. Ils sont là en renfort, ils sont mobilisés. Ils savent que le travail ne fait que débuter et qu'il devrait durer certainement très très longtemps.
La désolation, effectivement, pour les habitants qui, pour certains, n'ont même plus de toit au-dessus de leur tête. Emeline Darcourt sur les images de tous nos envoyés spéciaux.
Ce sont de gros parpaings que la tornade a arrachés aux habitations. Elle a renversé ce camion, enseveli cette voiture sous les branchages. Nos équipes, ce matin, sont entrées sur un tapis de gravats, dans des rues aux maisons détruites, 300 sont touchées. Des rues vides car les habitants ont été évacués à cause des risques d'effondrement des bâtiments.
Donc tant que les levées de doute ne sont pas terminées, nous ne prendrons pas le risque de faire réintégrer les habitants.
En sortant du centre-ville, la tornade est passée ici, là où toutes les têtes d'arbres sont comme pulvérisées. Pulvérisée aussi cette habitation. Séverine, Nicolas et leurs enfants ont échappé au pire.
Mon mari nous a dit de fuir. vraiment de courir. On a failli y passer à deux reprises, une fois ici et une fois dans la voiture. Et on s'est retrouvés en plein dedans, donc on a accéléré le plus possible. On partait vraiment limite, elle se soulevait quoi.
Juste ici, à côté d'où on se trouve. Hein.
Juste là, la route, la départementale juste derrière. On est passé, on est sorti du terrain et juste derrière, vraiment à une seconde près, on était mort.
Face à cette catastrophe, la famille n'est pas seule.
Ce qui est fort, c'est surtout la solidarité qui s'est mise en place. Sans ça, je pense qu'on serait là abattu à ne pas savoir quoi faire.
Voici leur exploitation vue par drone. Ils sont là depuis 6 ans. Tout est à refaire.
Autre envoyé spécial, Marie Roux. Marie, vous êtes avec des sinistrés.
Oui, on est avec Vincent. Pour tout vous dire, on l'avait croisé dès hier soir aux alentours de 23h, 23h30. Il essayait de prêter main forte, donner un coup de main parce que c'est son village, c'est là où il habite depuis des années. Vous me disiez, on est en état de choc. Vous réalisez à peine ce qu'il s'est passé.
C'est ça, on a du mal à réaliser malgré que bon, il y a une nuit qui soit passée, mais bon. Quand on voit les choses, on pense que c'est un feuilleton, que c'est pas réel, quoi. Mais en fait, on a du mal à réaliser que c'est la réalité, quoi. Et là, on a une nuit très courte. Bon, nous, en plus, on a 2 filles en bas âge, 6 ans et 1 an. Celle de 6 ans, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle fait 6 ans aujourd'hui et c'est très, très dur. Elle a vu tous ses jouets du jardin s'envoler hier avec ma compagne. Moi, j'étais sur la route au moment où ça s'est produit. Et ma compagne m'a appelé en pleurs, elle m'a dit « Tu t'arrêtes, t'es à 3 km, je sais, mais les tuiles volent, c'est comparable à des feuilles d'arbres. » Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment une catastrophe. On nous a dit qu'il y avait des vents qui étaient à 400 km/h. Et là, ben, vous le voyez aujourd'hui, quoi. On remercie toutes les communes aux alentours qui viennent nous aider. Nous, notre liste d'amis, tout ça, c'est porté volontaire pour de l'aide. Mais c'est très dur, quoi, parce que la maison, c'est pareil, qu'on a comme tout le monde, on a embelli l'extérieur, on a fait des choses, et là, tout est tombé à l'eau, quoi. Et puis bon, le toit est en grande... Il est très abîmé, quoi, c'est très dur, c'est très dur.
On imagine la difficulté, la peine que vous ressentez. Vous étiez à quelques kilomètres au moment où s'est passée la tornade.
Exactement, le village de Sépi, c'est à 3 kilomètres en direction de Limoux, donc 3 kilomètres au sud de Poma. Il n'y avait absolument pas un brin de vent. C'était le ciel noir, quelques gouttes qui tombaient, mais moi j'avais du mal à réaliser.
On imagine que votre femme, vos enfants, ils ont eu très peur.
Très très peur. Elle a voulu croiser les volets, elle n'y est pas arrivée parce que déjà le vent était très très fort. Et puis bon, je vous dis, elle s'est mise sous la table avec mes 2 filles, elles ont pleuré, bon, elles ont vu tout qui s'envolait à l'extérieur, et comme si c'était un film, quoi. Mais bon. Moi, je vous dis, à part là, j'étais sans mots, en fait. Quand je suis arrivé, j'ai même pas pu accéder, parce que toutes les rues que vous voyez actuellement là, il y avait des troncs d'arbres, il y avait 40 cm de moellons, de tuiles, de cassés. On ne pouvait pas accéder à l'entrée du village, quoi. Donc moi, j'ai garé ma voiture comme j'ai pu. J'ai aidé les employés de la mairie avec une pelle, un balai pour justement débarrasser et arriver chez moi, quoi. J'ai mis 45 minutes pour faire 200 mètres dans le village.
On n'imagine pas la désolation, la constatation. Comment on peut décrire le village ce matin quand vous avez parcouru les rues pour aller jusqu'à la salle polyvalente?
Bon, on dirait, je sais pas, que la vie s'est arrêtée, quoi. J'ai pas d'autre mot, on dirait que la vie s'est arrêtée. Elle repart ce matin doucement, tranquillement. Mais je vous dis, hier soir, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait personne, à part bien sûr les forces de l'ordre qui patrouillaient pour éviter les cambriolages. Mais bon, c'est très dur. C'est un village qui est à l'arrêt. Alors qu'il faut quand même rappeler que ce village, il est situé entre Carcassonne et Limoux. Carcassonne connue avec sa cité médiévale, Limoux connue avec son carnaval, sa blanquette de Limoux.
Oui, c'est un village assez festif.
On est quand même placé à 1h30 de la mer, 1h30 des pistes de ski. C'est très touristique. Et là, c'est compliqué. En plus, ça tombe au moment des vendanges. Voilà.
Compliqué. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, très compliqué ce matin et puis en début d'après-midi pour les villageois qui découvrent leur village car ils peuvent y accéder dès maintenant. On en parlait avec Jean-Wilfried Forquès. Les pompiers continuent les mises en sécurité, notamment de toutes les toitures. Ils vérifient chaque maison pour savoir si bien les habitants pourront un jour ou l'autre revenir chez eux.
Et cette tornade, ce qui est terrible, c'est qu'elle n'a duré que 5 minutes. 5 minutes d'enfer, les habitants se sont crus dans un film catastrophe. Reportage des envoyés spéciaux de BFM avec Eléa Morel.
Des décombres, il faut extraire quelques affaires, quelques souvenirs à emporter, malgré le choc.
ramasser. C'est un peu comme, vous savez, les bombardements, des choses comme ça. On voit des gens qui chirent dans les ruines. Bah, c'est un peu pareil. Voilà. C'est un peu la même chose. Le ciel nous est tombé sur la tête. Plus rien, c'est tout. Il ne reste plus que ma peau.
Bruno s'est caché chez lui, avec sa femme et sa belle-fille. D'autres étaient en voiture lorsqu'ils ont vu la tornade se rapprocher.
Je me suis vite dépêchée pour mettre la voiture avec le petit à l'abri. Il était caché sous le volant, voilà, entre mes jambes, moi recroquevillée dessus. Franchement, je me suis vue mourir. Vraiment, avec le petit qui était en train de hurler, les cailloux volaient, c'était l'apocalypse.
Il est environ 17h hier lorsque la tornade traverse le village de Poma, dans l'Aude. En seulement quelques minutes, la maison de cet habitant se retrouve en plein cœur du phénomène.
On est rentré s'abriter et tout d'un coup, ça s'est mis à les arbres à s'arracher et tout ça, les fenêtres éclatées et tout ça. J'ai vu ma voiture se soulever de 3 mètres. Un truc de fou. Et après, nous on était planqués dans la salle de bain parce que c'était le seul lieu où il n'y avait pas de fenêtre pour s'abriter. Et une fois que ça s'est calmé, quand on est sorti, on a vu la catastrophe. Qu'on voit à la télé, souvent aux États-Unis, on l'a vécu ici.
Sa maison n'a plus de toit. Comme elle, plusieurs centaines d'habitations sont détruites.
Lieutenant-colonel Frédéric Haro, merci de nous accompagner. Porte-parole de la sécurité civile, on le disait, bilan 39 blessés, dont 2 en urgence absolue. Vous avez des nouvelles des blessés?
Et alors non, aujourd'hui, sinon, la structure hospitalière, et maintenant c'est le service médical qui va évidemment continuer son travail. Par contre, les pompiers, eux, continuent, on l'a vu sur les images, ce travail de sécurisation, d'une part d'audit des structures pour voir ce qui est encore fragile.
Beaucoup de maisons sont fragiles et inhabitables.
Actuellement, on a 300 maisons touchées, pas toujours au même degré, mais dès lors qu'on a encore des morceaux de charpente à même de tomber, des tuiles qui créent d'autres dangers pour les heures qui viennent, quand maintenant les gens reviennent dans leur structure. Donc il s'agit d'une part d'évaluer et puis surtout de sécuriser ce qui doit l'être pour permettre la réintégration.
Les pompiers sont régulièrement confrontés à ce genre de phénomène. Ils sont de plus en plus fréquents. Est-ce que dans une période récente, vous aviez déjà été confronté aux conséquences d'une tornade aussi importante?
Alors des tornades, on en voit de temps en temps. Ce qui compte, c'est d'une part la force de la tornade, oui, et puis la densité de l'urbanisation qui va être en dessous.
Sa trajectoire, en fait.
On se rappelle de ces images dans le Val d'Oise, il y a quelques mois seulement, d'une grue et d'un chantier qui avait été touché, avec une personne décédée d'ailleurs. Et donc là, ce petit village, c'est des structures en dur, mais avec des toitures, on a vu, cet habitat traditionnel de la région, qui fait que ce vent, cette tornade emporte les toitures, emporte les tuiles, emporte les charpentes, et donc crée ces dégâts sur les habitations.
Vous avez été très touché, et vous nous le disiez hors antenne, par l'image de cet homme qui soutient sa baie vitrée pour empêcher qu'elle ne s'effondre. Ça vous rappelle quoi, cette image?
Ça me rappelle, j'étais sur le cyclone Chido en 2024 à Mayotte, et donc c'est un peu cette même image, cette espèce de karcher horizontal à l'extérieur qui emmène de l'eau et des débris inarrêtables, et donc c'est des vents de la même force, 250 km/h, alors avec une différence notable qui est la durée. Chido, c'était 3 heures de cyclone, là on est sur quelques minutes, tout au plus.
Parce qu'elle se déplaçait vite.
Mais c'est la même intensité et donc le même type de dégâts, avec des structures béton, des structures en dur qui tiennent, par contre des toitures, des structures légères qui sont emportées.
Alors on va essayer de comprendre le phénomène qui a généré cette tempête, ce cyclone d'une telle importance, cette tornade. On va d'abord, on va essayer de regarder cette image et de l'analyser ensemble. Marc, est-ce qu'on a d'abord une idée de sa dimension? Parce que ce sont des images qui nous rappellent des images de tornades vues ou vécues aux États-Unis. C'est alors, une tornade là qui, à sa base par exemple, à quelle dimension?
Alors on n'a pas encore cette information. En fait, pour savoir le diamètre de la colonne d'air, il va falloir que les experts de Keraunos, monitorent, surveillent les orages et les tornades en France, se rendent sur place, analysent ce qu'on appelle le couloir de dégâts, et ensuite ils seront en capacité de déduire la taille donc de cette tornade. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'enclume, c'est-à-dire le sommet du nuage d'orage, a pu atteindre la tropopause, c'est-à-dire 12 km d'altitude, température à cette altitude -75°, 30°, voire plus au niveau du sol. C'est ce violent conflit de masse d'air qui va alimenter cette supercellule orageuse qui ensuite va provoquer ces importants dégâts.
Qu'est-ce qui génère la puissance de cette tornade, et est-ce qu'on sait évaluer la vitesse des vents et la puissance d'ailleurs, parce qu'on a vu des camions quand même qui ont été quasiment retournés dans le
village. Absolument. Lorsqu'on le regarde, la nature des dégâts, on peut raisonnablement penser que c'est une tornade EF3 qui sera classée EF3 sur l'échelle de Fujita améliorée, c'est-à-dire des rafales de vent donc compris entre 219 et 266 km par heure. Donc on parle de dommages sévères avec des dégâts considérables avec ce type de vent. On l'a vu d'ailleurs sur les images précédentes. Vous avez donc la colonne d'air et donc cette colonne d'air peut en effet transporter des toitures entières, voire même soulever des véhicules.
Est-ce que l'on peut reconstituer le parcours de la tornade? Parce que c'est toujours évidemment ce qui nous étonne et ce qui nous interpelle. Ça naît comment et à quel endroit une tornade et ça meurt comment?
Alors on sait que la tornade est née au pied des Pyrénées entre les Pyrénées-Orientales et le département de l'Ariège. Et ensuite elle a pris la direction du département de l'Aude. Ce système multicellulaire ensuite, à l'intérieur de ce système multicellulaire, il y a eu une supercellule orageuse et donc ensuite elle a progressé vers le département de l'Hérault, puis elle s'est décalée vers le pourtour méditerranéen. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour que la tornade naisse, elle doit rencontrer un environnement propice. Il faut déjà un violent conflit de masse d'air. Je vous le disais, 30 degrés au sol, moins 75 degrés en altitude. Il faut également un fort cisaillement des vents. C'est quoi? Ce sont des vents qui ne vont pas dans la même direction au niveau du sol et en altitude. Oui. Ce qui permet d'avoir le caractère rotatif, donc, qui se met en place. Et lorsque, en fait, tous les ingrédients ne sont plus réunis, à la fois le cisaillement des vents, l'alimentation en air chaud et humide, et bien pour le coup, la tornade meurt. Et en fait, elle ne meurt pas vraiment. En fait, le système orageux persiste, mais la nature change. D'un système rotatif, on va passer à un système linéaire. C'est ce qui s'est passé ensuite en arrivant sur le département de l'Hérault. La cellule orageuse a pris une forme d'arc. Et donc cet arc orageux, il a parcouru plus de 500 km depuis l'Aude jusqu'au Var, jusqu'aux Alpes-Maritimes. Il a terminé sa course cette nuit sur la Corse.
Peut-être falloir s'y habituer. Yann Amis, météorologue Weather & Co. La journée de jeudi s'annonce elle aussi à haut risque.
Oui, bonjour à tous. Alors, ce que l'on avait évoqué hier, malheureusement, s'est mis en place, effectivement. Pas sans trop de surprise, je dirais, parce qu'on avait quand même des paramètres qui modélisaient, qui indiquaient que le risque de tornade était bien présent sur toute la zone, notamment de l'Aude, Carcassonne, Béziers. Et en fait, quand on regarde à nouveau la situation qui se met en place pour jeudi, on repart sur un système, je dirais, à peu près cohérent en termes de rendez-vous. C'est-à-dire, on va retrouver à peu près des paramètres qui sont favorables et qui seront encore bien présents. C'est-à-dire, à la fois, cette fois-ci, au niveau dynamique, en altitude, un fort jet en altitude. Donc, c'est ce qui provoque notamment l'étirement de la colonne nuageuse, ce qui permet de faire, en fait, monter les molécules des basses couches vers la très haute troposphère. Et en l'occurrence, de favoriser la naissance de puissants, on va dire, orages. Donc, ces phénomènes vont encore s'organiser certainement du sud-ouest vers le centre en direction de la région parisienne. Et quand on regarde, par exemple, ce matin, les risques, entre guillemets, de tornades potentielles, on a tout un couloir qui se réactive à nouveau, notamment qui comprend toute la partie du Var, et cette fois-ci, un petit peu plus le couloir rhodanien, avec une lecture qui se fait à peu près de Béziers-Montpellier-Nîmes en remontant en direction de Lyon. Donc on est encore dans une configuration très favorable à observer malheureusement ce genre de phénomène, oui.
Mais alors justement, je sais que c'est imprévisible et très localisé, mais on ne peut pas davantage prévenir les populations, alerter et protéger?
Alors c'est délicat. Enfin moi pour ma part, on opère des systèmes en fait d'IA notamment qui nous permettent d'anticiper les prévisions de précipitations et de flux par pas de 10 minutes, produit qu'on a sorti notamment cet été. On a vu hier en fait se mettre en place des signatures en fait de convection et d'écho radar qui nous permettent de matérialiser en fait le début des phénomènes tornadiques. Ceci étant, c'est ce que l'on voit, en fait, c'est dans la moyenne troposphère. Et ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il faut que ce cône de moyenne troposphère descende sur le sol et vienne faire la jonction avec le sol et provoquer finalement ce qu'on appelle la tornade. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien avoir en tête, quand on est en phénomène orageux, et c'est ce que l'on a vu dans de très, très belles images, notamment sur vos écrans, sur la région des Bouches-du-Rhône, on voit des limites, en fait, en espèces d'arc qui ont survolé les Bouches-du-Rhône, qui étaient très nettes, très matérialisées, très noires, très foncées. Tout ça, ça correspond à des mouvements de rotation qui sont dans le plan, on va dire, horizontal. Et avec, en fait, la puissance de phénomènes orageux plus puissants, dont ce qu'on appelle les supercellules, parfois, ce qui va se produire, c'est que les rafales descendantes vont être capables de coucher ce rouleau qui est dans le plan horizontal, vont être capables de le coucher dans le plan vertical et donner naissance à ce qu'on appelle à une tornade en basse couche. Et c'est ça que l'on a observé hier sur cette commune. mais ça reste très ponctuel, très hyper localisé, et malheureusement, à part signaler, on va dire, des zones qui sont potentiellement, dans les zones dans lesquelles on peut avoir potentiellement des tornades, il est toujours très difficile de venir préciser ponctuellement, c'est à cet endroit-là que l'on aura une tornade. C'est pas quasiment, c'est impossible, si ce n'est que quand le phénomène est lancé, en fait.
Merci beaucoup Yann, vous évoquez les Bouches du Rhône. Bah justement, ces vents que vous évoquez sont à l'origine de l'effondrement de cette grue sur le chantier naval de La Ciotat. Heureusement, ça n'a pas fait de victimes. Il y avait d'ailleurs un yacht là tout près qui n'a pas été touché, mais on a bien compris, donc on ne pouvait pas prévoir avec une grande précision ces tornades, mais la conjonction en revanche des facteurs qui les génèrent, oui, et on a bien compris à vous entendre Yann donc que le couloir rhodanien était potentiellement concerné dans les jours qui viennent et notamment jeudi.
On y reviendra à midi et demi. En attendant, sur fond de discussion autour du budget, l'écho et le gouvernement qui va bien finalement augmenter les franchises médicales. C'est tout de suite avec Gaëtan.
Soyez créatifs devant votre programme avec les coupons de Saint-Pierre.fr. Vente en ligne de tissus de qualité et à petit prix.
Alors ça,
c'est l'une des questions cette mi-journée, Roselyne. Combien de maisons de Poma sont-elles inhabitables?
On assiste ce matin à des scènes de dévastation. On sera avec l'un des sinistrés qui, comme ça, a retenu tant bien que mal hier sa baie vitrée face à des vents à 200 km/h. Poma, c'est un petit village entre Carcassonne et Limoux, ravagé par la tornade. Des dizaines de maisons au moins ont été déchiquetées. Une quarantaine de blessés, dont deux en urgence absolue. On retrouvera Jean-Wilfried Forquès en direct.
Autre question du midi BFM. Les milliardaires sont-ils des nuisibles? Vive réaction après ces propos tenue par Manon Aubry de LFI. Elle ne veut pas seulement taxer les riches, mais aussi les interdire. Le commentaire de Laurent Neumann sur cette chasse aux ultra-riches dans quelques instants.
Du jamais vu depuis Disneyland Paris, Emmanuel Macron se félicite de la création d'un parc d'attractions sur les mangas financé par l'Arabie Saoudite. 6 milliards d'euros en échange de quoi? Qu'est-ce que les Saoudiens recherchent vraiment? On ouvre le débat à 13h.
Et en Trump, le président promet d'asphyxier le pays avec de nouvelles sanctions. Téhéran répond avec des menaces contre son propre fils. 10 millions de dollars pour la tête de Baron Trump. Netanyahou assure aussi que ses fils ont failli être tués.
Et puis face à la sécheresse, il faut réduire notre consommation d'eau. Un maire du Jura a décidé de multiplier les tarifs par 7 pour motiver, si on peut dire, ses habitants. Qui décide vraiment des prix? L'eau va-t-elle forcément augmenter pour tout le monde? On posera la question à Charlotte Méritant dans un instant.
Il faut toujours faire attention, Rosine, évidemment, lorsqu'on emploie des mots, mais le mot apocalypse, il a été prononcé et répété ce matin par les sinistrés de Poma, comme si on avait largué une bombe. C'est aussi une expression qu'on a beaucoup entendue.
Et pour tous, ça s'est joué à quelques secondes près. Leur vie était en jeu avec cette tornade qui a tout ravagé en quelques minutes. Témoignage effrayant, au lendemain du massacre. Elle a fait au moins 39 blessés, dont deux en urgence absolue. Jean-Wilfried Forquès, on vous retrouve en direct. Vous êtes avec un sinistré, justement.
Oui, et je précise, le mot apocalypse, c'est le mot utilisé ici à la radio lorsqu'il appelle le PC. C'est le mot utilisé par un gendarme. Il le répète à plusieurs reprises. Il dit à ses amis au poste de contrôle, apocalypse, apocalypse à Poma. Donc c'est un mot qui n'a pas été utilisé par hasard. Regardez, ici nous sommes dans la zone qui a été la plus dévastée à l'occasion de cette tornade absolument exceptionnelle. Des maisons qui ont perdu leur toiture. Nous sommes avec Alain, que j'avais rencontré hier soir, qui était avec nous en direct avec Maxime Switek à 21h. Bonjour Alain.
Bonjour.
On se retrouve, mais c'est la première fois que vous revenez chez vous.
C'est ça.
Depuis hier soir.
Oui.
Et ça,
terrible. C'est comme ça. Mais là, c'est de l'émotion. Voilà.
Hier soir, vous me disiez, ça va être dur demain. Et on y est.
Oui, parce que hier soir, c'était l'esprit était combatif. Il fallait survivre. Et là, maintenant, regardez les gars.
Survivre, parce qu'on va montrer à Christophe et à Roselyne, montrez votre bras. Montrez votre bras qui a été, voilà, des entailles. Parce que regardez au sol également avec les images de Jean-Baptiste. Au sol, il y a des verres. Vous étiez juste derrière la baie vitrée qui a explosé. Hein. Ouais, elle a explosé.
Elle a explosé, oui.
Et vous êtes dit à un moment, il faut que je sorte.
Bah, ça m'a projeté au milieu du salon. Et mon épouse était de l'autre côté. Et donc, je lui ai dit, il faut qu'on rampe, il faut sortir. Et on est descendu, on a un coin au sous-sol où il y a un escalier en béton. Et on a réussi à arriver là-bas pour se mettre en dessous.
En rampant.
En rampant, dans le verre.
D'où ces blessures.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'était un moment... Hier soir, vous me disiez, je ne sais pas combien de temps ça a duré, 2 minutes, 3 minutes.
On ne sait pas. Je sais seulement que je l'ai vu arriver. J'ai vu arriver la tornade. J'ai dit à ma femme, c'est une tornade, donc les portes étaient fermées et on tenait la porte. Et puis j'ai vu tous mes arbres qui se levaient, qui tombaient. La cabane, pfft, tout est parti. Et après, je pense que c'est un projectile qui a explosé. Et donc après, le vent est rentré, ça a soulevé le toit. C'est une horreur, quoi.
C'est une maison avec votre épouse ici, dans laquelle vous vivez depuis 15 ans, vous m'avez dit ?
Oui. On s'est installé ici pour la retraite. Et ben voilà, c'est fini. On va reconstruire, c'est tout.
Parce que vous avez envie de vous battre, vous me l'avez dit. Vos amis vous ont hébergé cette nuit, ils sont venus à votre chevet.
Heureusement qu'ils sont là, je veux dire, oui.
Didier
et Corinne. Et c'est... ça a aidé, et là ce matin c'est de plus, parce que c'est maintenant qu'on prend le coup.
Merci, et je vous dirai simplement bon courage. Je vais vous montrer une dernière image, Christophe. Ce sont les camions de pompiers qui sont à proximité de la maison d'Alain, pour les opérations de sécurisation qui ont débuté hier soir. Il s'agit de voir si les bâtisses sont viables. Et tout à l'heure, Alain me disait, ce que je crains, c'est que ma maison soit rasée.
C'est inimaginable, en fait, ce qu'ont sans doute vécu Alain et sa famille et d'autres sinistrés. Et des témoignages comme celui d'Alain, eh bien, il y en a hélas beaucoup dans cette commune de Poma, une commune de 1000 habitants. Reportage d'Océane Boisselot, Valentin Rivoli et Valentine Rime avec Emeline Darcourt.
Les deux mains contre la paroi vitrée pour tenter de toutes ses forces de la tenir.
Laisse.
Dehors, le chaos. Devant la fenêtre côté opposé, sa femme filme la tornade.
C'est horrible !
Marion et Arnaud, qui ont vécu cette scène, la racontent.
On buvait un coup chez nous et nos copains allaient partir. Et là, la tornade s'est déclenchée. Et on était derrière la baie vitrée et on a vu tout décoller, tout s'envoler. Bras zéro de 350 kilos qui s'est soulevé comme s'il était en plastique. On a toutes les vitres qui ont explosé dans la maison. Et puis l'eau qui est rentrée. Le cataclysme, la catastrophe.
On a la chance d'avoir une vieille maison qui a 150 ans et qui a résisté peut-être mieux que des maisons récentes. Mais on n'a plus de toit, on n'a plus de fenêtres, mais les murs sont encore là.
Cette tornade passée dans Poma a été filmée par des dizaines de personnes. Les habitants qui la filment ici de près ont eu la chance de ne pas être exactement sur sa trajectoire.
Mais c'est gigantesque. Attends, c'est des chaises.
La tornade laisse derrière elle des bâtiments entièrement détruits, des toitures envolées. 300 maisons sont touchées. Même l'église, qui date pourtant du XIVe siècle, est jonchée de gravats. Une partie de la voûte a été détruite.
Et comme nous, vous avez été très nombreux à être frappés par cette image. On voit cet homme qui retient vraiment avec ses mains, avec tout son poids, sa baie vitrée. Il s'agit d'Arnaud avec sa compagne Marion. Ils seront en direct avec nous à 12h40.
Alors ces phénomènes violents, ils ont été accentués par la canicule. D'ailleurs, devrait-on dire les canicules. Cinq cet été, ces coups de chaleur à répétition ont provoqué une sécheresse également exceptionnelle. De nombreux départements ont pris des mesures de restriction d'eau et peut-être êtes-vous concernés d'ailleurs.
Et certains maires vont plus loin, vous allez voir, augmentent carrément les tarifs pour dissuader les habitants de trop consommer, les forcer à faire des efforts. Dans un village du Jura, le maire a carrément, tenez-vous bien, multiplié les prix par 7. Reportage Julien Vosna et Théo Buruni avec Manon Rasplus.
Son verre d'eau lui coûte désormais 7 fois plus cher. Alors, quand Patricia doit ouvrir son robinet, elle y réfléchit à 2 fois.
Ouais, je prends plus de bain. Je prends que des douches courtes, l'eau froide, au maximum, ou tiède. Et dû au manque d'eau qu'il y a au niveau de la source.
Les habitants le savent bien, le village de Pimoine est alimenté par une source d'eau naturelle. Mais avec la sécheresse, le réservoir se vide sans jamais se remplir.
Chaque jour, on relève le niveau d'eau. Donc on a une référence, c'est l'échelle qui est dans ce réservoir. Et on vérifie en fonction de cette échelle où en est le niveau. Donc par rapport à hier, on est descendu de l'ordre de 10 cm.
Pour préserver l'eau, le maire a donc décidé d'augmenter son prix. 8 euros le mètre cube contre 1,10 euros en temps normal. Une méthode radicale, mais qui permet de réduire drastiquement la consommation.
Aujourd'hui, on est de l'ordre de 7 à 10 mètres cubes jour, alors qu'en période normale, on est plutôt de l'ordre de 15-16 mètres cubes. Donc l'effet, il est immédiat.
Le maire assure que cette mesure est temporaire. Le mètre cube d'eau retrouvera son prix habituel dès que le niveau de la source augmentera à nouveau.
C'est sympa de vous retrouver, Charlotte Méritant. Bonjour.
Bien, bonjour.
Journaliste conso, multipliez d'abord les prix par 7, comme le fait ce maire. C'est légal, ça?
Oui, c'est tout à fait légal. En fait, c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Le maire ne décide pas seul. En revanche, il peut y avoir une décision prise par le conseil municipal ou le conseil communautaire quand on est dans le cas d'une communauté de communes. La hausse doit avoir un motif légitime. Et la protection de la ressource, quand il y a une période de sécheresse, c'est un motif légitime. Ça peut aussi être l'évolution des coûts d'exploitation, des investissements dans les infrastructures, parce que les canalisations sont très vétustes en France. Il y a plusieurs cas de figure comme celui-là, mais on peut augmenter le prix de l'eau sans plafond pour ce qui est de la consommation qui dépend de chacun.
Mais ça ne dépend pas que des élus, parce qu'on est nombreux à payer, à voir que ça a été délégué à des grandes entreprises.
Oui. Mais...
Au fond, qui décide du prix de l'eau?
Voilà.
Ah, le prix de l'eau est fixé par les communes, qui jouent sur le prix au mètre cube. En revanche, pour tout ce qui est coût des infrastructures, coût de l'acheminement, là, effectivement, c'est un abonnement qui, lui, est fixe.
Et si on met tout ça bout à bout, l'eau est bon marché ou pas en France?
Oui, l'eau n'est pas très chère en France. On est autour de 4,60 € le mètre cube. Ça représente à peu près 500 € de dépenses par an pour une consommation de 120 mètres cubes. C'est à peu près dans la moyenne européenne. Donc c'est vrai que l'eau ne coûte pas très cher. L'eau devra probablement coûter plus cher dans les années à venir parce que il y a un rapport de l'Inspection générale des finances qui dit qu'il faudra forcément augmenter le prix de l'eau de 25 à 30% assez rapidement à court terme et partout, pour notamment gérer la dépollution de l'eau qui est aussi due à la sécheresse. Plus on a des sécheresses, plus l'eau est polluée et ça a un coût de 2 milliards par an selon ce qu'estime l'Inspection générale des finances.
Non.
Et Charlotte le disait, les canalisations d'eau sont très obsolètes en France. Ce sont des milliers de kilomètres qu'il faudrait changer et ça coûte des milliards d'euros. À l'échelle d'une toute petite ville, c'est plusieurs millions d'euros chaque année. Pour les remettre en état, il y a un quart de l'eau qui s'en va dans les nappes phréatiques, qui ne va pas là où elle devrait aller.
Et sans les remplir, voilà.
En plus.
L'actualité à l'étranger, le bras de fer entre Donald Trump et l'Iran, Roselyne. D'un côté, le président américain assure que l'Iran s'effondre et menace de l'asphyxier avec de nouvelles sanctions économiques.
Et puis alors de l'autre, il y a l'Iran qui met à prix la tête, non pas de Donald Trump, c'est déjà fait, mais en plus de son fils Baron, 10 millions de dollars. Et l'Iran tenterait aussi de s'en prendre au fils du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Eléa Morel.
La vidéo dure près de 3 minutes, durant lesquelles la tête de Baron Trump, 20 ans, est mise à prix 10 millions de dollars.
Où tu es, Baron Trump?
Le fils du président américain est ciblé par Téhéran. Ce film, généré par intelligence artificielle et diffusé à la télévision d'État iranienne, prétend révéler l'adresse de son logement étudiant, la disposition de ses gardes du corps et même ses comptes sur les réseaux sociaux.
Infiltré dans le cercle restreint des proches de Baron et les recrutés ne nécessitent pas une opération complexe.
Des menaces faites aussi à l'un des fils de Benjamin Netanyahou. Hier, le premier ministre israélien le dévoilait lors d'un appel diffusé à la télévision.
Concernant mes fils, je pense qu'il y a quelque chose de tout simplement inimaginable. L'Iran a pris pour cible l'un de mes fils. L'Iran a tenté d'assassiner l'un de mes fils. Ils ont tenté de l'assassiner.
Depuis plusieurs mois, les menaces directes envers Israël et les États-Unis se multiplient en Iran. Sur ce panneau publicitaire affiché dans la capitale, un Donald Trump étranglé avec ce message « La revanche est inévitable ». De son côté, le président américain a prévenu fin janvier « En cas de tentative d'assassinat, tout le pays explosera ».
La politique à présent, les milliardaires sont-ils des nuisibles? C'est ce qu'a affirmé l'élu LFI Manon Aubry. Et on va voir avec vous, Laurent Neumann, que ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Mais d'abord, on l'écoute, c'était aux universités d'été de la France Insoumise.
Taxer les riches, c'est pas suffisant. Si l'on veut être clair dans une société où on va remettre les choses à l'endroit, c'est qu'il ne faudra pas seulement taxer les riches, mais interdire les milliardaires. Parce que s'il n'y a plus de milliardaires, alors il n'y a plus personne qui détient les médias. S'il n'y a plus de milliardaires, il n'y a plus personne qui massacre la planète. Et je vais même plus loin. D'un point de vue purement économique, je veux vous convaincre aussi à quel point les milliardaires sont des formes de nuisibles. J'assume.
Elle assume, mais ça fait sacrément réagir dans votre café, Laurent.
Ah oui, alors moi, ça m'a mis en colère, mais j'ai constaté que j'étais pas le seul que ça mettait en colère. Parce qu'en fait, quand vous utilisez le mot nuisible, non seulement c'est outrancier, non seulement c'est historiquement connoté, mais en plus, c'est pire, ça tue le débat. Il n'y a plus de débat. Parce que quand on écoute Madame Aubry, il s'agit plus seulement de taxer les ultra-riches, elle le dit, il s'agit carrément de les interdire. Alors que le vrai débat, le vrai sujet, serait que les ultra-riches, ces fameux milliardaires participent à la hauteur de leurs revenus à la solidarité nationale. Mais en employant ces mots, on tue le débat.
Est-ce que les ultra-riches ne paient pas assez d'impôts? Est-ce que ça, c'est factuel?
Alors, la réponse est oui. C'est pas moi qui le dis. Tous les rapports des économistes le documentent. En clair, je vais faire simple.
Économistes de droite comme de gauche.
Voilà, je vais pas vous abreuver de chiffres, mais en gros, les ultra-riches, donc c'est les 0,01% des contribuables, ils payent en moyenne entre 20 et 26% d'impôts sur leurs revenus, alors que la moyenne des Français paye entre 46 et 50%. Et donc, il est là le vrai sujet, c'est qu'en France, l'impôt sur les revenus est totalement progressif pour chacun d'entre nous, sauf pour les 0,1%, où là, l'impôt devient dégressif. Alors, c'est simple à comprendre. Quand vous êtes un milliardaire, c'est assez facile, au fond, d'échapper à la fiscalité. Vous pouvez transférer vos revenus ailleurs. Mais quand vous êtes un salarié qui gagne entre 2 et 3 000 euros par mois, vous ne pouvez pas échapper à l'impôt. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Gabriel Zucman, l'économiste de gauche, pour le coup, avait proposé de taxer les patrimoines de ces ultra-riches à hauteur de 2%, parce qu'il est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas faire payer les milliardaires le juste impôt sur le revenu qu'ils devraient payer. Sauf que tout le monde s'y est opposé, en tout cas le bloc central, la droite et la droite extrême, tout le monde a dit non.
Merci beaucoup Laurent. On revient à présent sur cette tornade qui a ravagé Pona dans l'Aude. On est entre Carcassonne et Limoux, petit village d'un millier d'habitants. Et parmi eux, il y a Marion et Arnaud. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Merci à tous les deux d'accepter de nous répondre après ce qui s'est passé. Arnaud, c'est vous que l'on voit sur les images absolument incroyables qui tournent depuis hier. Vous retenez avec vos mains, avec tout votre corps, cette baie vitrée. Racontez-nous.
Alors, bonjour. Et c'est pas moi qui tiens la porte, c'est un ami qui allait partir à ce moment-là. Et en fait, il a été surpris par le vent, donc il avait mis la main sur la poignée pour rentrer chez lui. Et le vent a commencé, on est sur une région venteuse. On était en alerte orange pour les orages, donc on s'attendait à avoir un peu de vent, de la pluie, peut-être de la grêle. Et puis, en peu de temps, on a vu le mobilier s'envoler, tout partir. Et là, on s'est dit, vu ce qu'il se passe à l'extérieur, si ça rentre dans la maison, on n'a plus de maison. Donc, on a essayé de tenir la baie vitrée du mieux possible. C'était une baie vitrée renforcée. Et en fait, c'est elle qui a sauvé la maison. Donc, on a beaucoup de dégâts, bien sûr, certainement, même sûrement beaucoup moins que d'autres. Le village est sinistré. C'est une véritable cicatrice à travers tout le village de Poma. Donc, on va dire qu'on s'en tire bien. On n'est pas blessé ou très légèrement. Et au niveau des dégâts, ça va être du matériel. On attend les réparations d'urgence au niveau du toit et des fenêtres pour éviter des entrées d'eau s'il venait à faire orage ou à pleuvoir. Et après, voilà, on va attendre, on va nettoyer.
Arnaud, la baie vitrée en question, c'est celle évidemment qui est derrière vous, là, qu'on voit sur les images. Est-ce que vous avez pensé à un moment que la tempête allait détruire la baie vitrée et entrer finalement dans votre maison? Et puis je prolonge ma question, est-ce que vous savez d'ores et déjà évaluer les dégâts chez vous?
Alors pour la première question, la baie vitrée, quand on a acheté la maison il y a 5 ans, on nous avait prévenu que c'était une baie vitrée renforcée qui protégeait du soleil pour avoir une sorte de climatisation naturelle. Elle était renforcée également contre les intrusions puisque c'est notre entrée principale. Et on s'est dit, si elle doit tomber, on n'a plus de maison. Donc, c'était un peu dérisoire de la retenir seulement avec la force, mais la tornade a duré peut-être une minute et ça a suffi à protéger la maison. Donc, on s'en tire bien.
On n'a pas eu le temps de réfléchir de toute façon. On n'a pas eu le temps. C'était trop rapide.
Ça,
justement, est-ce que vous savez évaluer combien de temps ça a duré, Alain ? Arnaud ?
Non, ben, moi je l'estimerais à une minute à peu près. Ça va tellement vite. Dans un premier temps, je pensais que ça avait duré 10 secondes, et puis finalement, non, c'est certainement une minute, deux minutes. Mais ça a été très rapide, et en très peu de temps, tout s'est envolé. On a un bras zéro de 350 kilos, il s'est envolé comme si c'était une chaise en plastique. On se préparait à la fête du village à partir de jeudi. On avait deux semi-remorques qui se sont retrouvées sur le flanc, qui ont été renversées. Tout a été détruit. Voilà, c'est des trucs qu'on voit à la télé aux États-Unis certainement. On n'a pas l'idée que ça puisse arriver ici. Ici, on a souvent des conditions difficiles. On a eu des incendies. On a eu la grêle, mais. On ne pensait pas avoir une tornade comme ça.
On voit vos images hein, pendant que vous parlez.
Et pour
vous
la deuxième question.
Vous avez eu peur ? Vous l'avez dit, c'était tellement rapide. Est-ce que vous avez eu peur ou même pas le temps de réfléchir ?
Ah non, sur le coup, on n'a pas le temps. On imagine rien du tout. On se dit, on va essayer de protéger l'entrée de la maison. Et puis après, il y a la panique qui peut arriver. On essaie de se sécuriser, on vérifie qu'on ne soit pas blessés les uns les autres. Et dès que le vent est tombé, on est sorti, on a vu un terrain de guerre dans tout le village. Et on a essayé de porter assistance aux gens qui étaient davantage blessés par rapport à nous.
Arnaud, on est vraiment estomaqué par vos images, parce qu'il y a non seulement la puissance de l'image et des ravages de la tornade, mais il y a aussi, et je crois qu'on va l'entendre, le bruit généré par cette tornade. Terrible ce bruit.
Oui, le bruit, c'est le... Le fait que tout vole, tout tape partout, les Velux qui explosent, les impacts sur la baie vitrée, tout s'envole, tout percute tout, on peut pas l'imaginer une seule fois. Et c'est fait. Maintenant, on est heureux, on a eu la chance de pouvoir revenir ce matin. Et puis on voit les dégâts, on s'est dit qu'il y a du travail pour faire revivre le village et le nettoyer.
Merci beaucoup Arnaud, Marion, d'avoir témoigné aujourd'hui sur BFM TV. Bon courage aussi pour reconstruire. Bonne nouvelle donnée aussi par la préfecture. Il y a eu une quarantaine de blessés, dont deux qui étaient en urgence absolue. Ils vont mieux désormais. Leur état est jugé moins critique. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans le midi BFM. Dans un instant, ce sera l'heure du dossier et de la question autour de ce parc d'attractions financé par l'Arabie Saoudite. Mais que cherche-t-elle à obtenir en échange ?
Vous aimez les parcs d'attractions, vous allez peut-être adorer celui-là, puisqu'il y aura bientôt un nouveau méga-parc d'attractions aux portes de Paris, centré sur les mangas. Mais qu'y a-t-il derrière ce projet, Roselyne, financé par l'Arabie Saoudite ?
Voilà, c'est 6 milliards, c'est en échange de quoi ? Pourquoi les Saoudiens veulent-ils absolument investir en France ? Voilà à quoi pourrait ressembler ce parc d'attractions. Un premier est en construction en ce moment même en Arabie Saoudite, en plein désert du côté de Qiddiya. Mais d'abord, Patrick Sauss, il faut que vous nous expliquiez quel est le lien entre les mangas japonais, les milliards saoudiens et nous.
On va commencer par les mangas passion partagée, semble-t-il, par à la fois MBS, le prince héritier saoudien, et par Emmanuel Macron. Je connaîtrai pas la vérité autour de l'amour du président français sur les mangas, mais pour ce qui est de la culture japonaise et des jeux vidéo, je peux vous dire que MBS se place là. Moi, j'ai le souvenir d'une conversation avec un membre de la délégation française qui s'était rendu à Riyad et en Arabie Saoudite. C'était en décembre 2024. Il y avait eu un côté très protocolaire. clair, vraiment avec des signatures de contrat. Et puis derrière, un moment un peu plus informel dans l'un des grands palais de MBS. MBS qui leur dit, écoutez, je vais juste me rafraîchir. Il ouvre une porte, vous pouvez déjà vous détendre ici. Une gigantesque salle d'arcade. Et derrière, entre bowling et d'autres jeux, en fait, les membres de la délégation se sont rendus compte qu'il y avait toujours au moins un ordinateur quelque part dans l'une de ces pièces très marbrées avec quelqu'un qui jouait aux jeux vidéo. Pourquoi? On me l'a expliqué un peu plus tard, parce que MBS, sous pseudonyme, fait partie des plus grands joueurs, les joueurs les plus forts d'un jeu qui s'appelle League of Legends. C'est un jeu en ligne de combat. Personne ne sait que c'est le prince héritier saoudien, mais en tout cas, les jeux vidéo plus la culture japonaise, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la personnalité. Ensuite, évidemment, oui, il y a les intérêts diplomatiques.
D'abord, David Rigoulero, la passion du Mohamed Ben Salman pour les jeux, par-delà. C'est-à-dire que il est fan de Dragon Ball Z, et donc, il investit, surinvestit, non seulement dans un parc d'attractions chez lui, mais ensuite donc dans un parc d'attractions en France.
Oui, oui, alors pas que de Dragon Ball Z, parce qu'en fait, c'est un addict des jeux vidéo. Il a commencé avec Call of Duty. Il adore Call of Duty.
On rappelle, Call of Duty, c'est on tire sur les autres joueurs, et c'est donc un jeu de survie et de bataille.
Donc effectivement, il adore ça, et il a l'ambition d'ailleurs déclarée. Il avait dit fin 2024 qu'il voulait faire de Riyad, enfin du Royaume d'Arabie Saoudite, le centre mondial des jeux vidéo et de l'e-sport. Et on a vu qu'il y avait la finale de l'e-sport, donc c'est pas un hasard. Et c'est pas uniquement, j'allais dire, un effet d'affichage, hein. C'est qu'il y a une logique quand même économique sous-jacente qui est pas négligeable. Il prévoit 1% du PIB. Et 40 000 emplois à travers 250 sociétés, un écosystème en fait qui est monté par le fonds souverain, financé par le fonds souverain pour développer ce secteur, ce segment particulier dans son plan Vision 2030.
Donc une passion, mais du business aussi, c'est le cas chez nous également. Le projet d'ailleurs est assez avancé. Il y a des discussions pour réhabiliter le site de Mirapolis. Vous vous en souvenez pas forcément. C'était le premier parc d'attractions en France qui a fait faillite à la fin des années 80. Laura Cambeau, vous êtes sur place. On est juste à côté de Cergy Pontoise. C'est un site gigantesque et vous avez pu y entrer.
Oui, nous avons pu y entrer. Il ne reste plus grand-chose ici. Il n'y a plus de statue de Gargantua, il n'y a plus d'attraction. On peut juste voir cette immense porte d'entrée. Ici, en tout cas, l'annonce de ce projet, ça suscite évidemment beaucoup de réactions. Et nous sommes avec Myriam Bouslam. Alors, vous êtes conseillère d'opposition de la commune de Courdimanche, sur laquelle se trouve ce site. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet ?
Alors déjà d'une, bonjour, on l'a eu, ce projet-là au tout début de l'été avec étonnement. La méthode interroge, que ça vienne de l'Élysée sans concertation préalable avec les représentants des villes avoisinantes, notamment celle de Courdimanche, ni les habitants, ni les associations, ni les commerçants. C'est un petit peu ça qui nous étonne. Alors maintenant, l'accord a été signé d'intention hier à l'Élysée entre Mohamed Ben Salman et le président de la République. Ce qu'on espère, c'est que les pétrodollars n'exemptent pas une concertation respectueuse de la démocratie locale.
On nous parle quand même des avantages, c'est-à-dire 22 000 emplois qui vont être créés, 6 milliards d'euros investis sur place. Ça reste une bonne nouvelle pour la commune.
Alors c'est une très bonne nouvelle, encore faut-il que ça puisse bénéficier à la commune de Courdimanche et non pas uniquement à tout le département du Val-d'Oise, même si c'est une très bonne nouvelle pour le département du Val-d'Oise et de la commune de Courdimanche et l'agglomération de Cergy-Pontoise de manière générale. Moi, en tant que conseillère municipale d'opposition, mon intérêt c'est les Courdimanchoises et les Courdimanchois, et donc c'est pour ça que j'espère qu'il y aura des clauses, notamment sur l'emploi local, avec un quota qui puisse bénéficier notamment à notre jeunesse en termes d'apprentissage, de stages, de formation. Aussi, les transports, c'est un vrai sujet. Le RERA est saturé, la 15 est saturée. Est-ce que justement ces 6 milliards d'euros vont pouvoir bénéficier à l'amélioration du trafic de mobilité?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent ici que les infrastructures, elles ne sont pas prêtes en fait. On ne peut pas accueillir ici trop de monde.
Mais elles sont pas prêtes. Et puis le RERA, est-ce qu'il est prêt de à la fois gérer Disneyland pareil d'une extrémité et un nouveau parc avec 3 parcs à thème de l'autre extrémité? Je m'interroge. Et je demande à Valérie Pécresse, qui en effet se réjouit de cette annonce, elle est présidente d'IDFM, de mettre les moyens pour justement aider à l'amélioration du trafic RER à Brance-Cergy, et bien évidemment l'autoroute A15, les mobilités aussi douces, la voie de bus, elle doit être aussi une réflexion collective, et puis bien évidemment l'environnement. quid de l'environnement. Aujourd'hui, c'est une friche. Elle a repris ses droits depuis plus de 30 ans. La faune, la flore est respectée. Donc, il faut aussi sauvegarder cette dimension-là. Et bien évidemment, d'accord, il faut que les ressources budgétaires puissent aussi aller dans le bon sens, notamment pour l'intérêt budgétaire de la commune, que toutes les recettes fiscales puissent aller sur le budget propre de la commune et non pas sur d'autres collectivités territoriales, parce que c'est surtout sur la ville de Courdimanche que ça se situe.
Merci beaucoup. Donc vous l'avez entendu, hein, il y a également beaucoup d'interrogations sur ce projet de nouveau parc qui devrait donc être créé ici. Nous en sommes qu'au protocole d'accord, ça ne se fera que donc dans quelques années.
Patrick, on va pas bouder évidemment quelques 20 ou 22 000 emplois, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une porte d'entrée pour l'Arabie Saoudite vers d'autres investissements? En clair, est-ce qu'on a promis d'autres choses à Mohamed Ben Salman?
Alors, pour l'instant, on est vraiment, les mots sont importants dans les lettres d'intention, les accords d'intention, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des investissements très très lourds qui vont être faits en Arabie Saoudite. Hein. Alors, CMA-CGM, propriétaire de BFM TV, va quasiment prendre le terminal pétrolier de Jeddah. Alstom aussi a un gros contrat sur les transports ferroviaires. Mais effectivement, il y aura sans doute énormément de recours. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions forcément sur ces pétrodollars. Pas très loin de Cergy-Pontoise, vous avez Poissy avec le super campus du Paris Saint-Germain, financé évidemment par le Qatar. Ensuite, c'est l'immense débat. Un débat qui s'est déjà posé, je mets de côté, pardon, hein, mais très très provisoirement, les questions des droits de l'homme, on pourrait y venir juste après, mais pour ce qui est des questions de financement étranger. 1985, lorsque Euro Disney est enfin autorisé à venir de terre, on est sur des champs de betteraves, oui, du côté de Marne-la-Vallée, vous avez ces mots qui viennent, je l'ai relu, de Ariane Mouchkine, vraiment metteuse en scène de spectacle et de théâtre, qui parlait d'un Tchernobyl culturel. On en était là, on était à l'époque de, oui, Reagan, on parlait d'impérialisme américain, on parlait de McDonaldisation de la culture. 7 ans plus tard, il y a ces images de François Mitterrand et George H. Bush qui sont dans Main Street, dans Disneyland, et on connaît le succès désormais, y compris pour les emplois sur place. Donc ça va être une espèce de ligne de crête, on l'a bien entendu avec cet élu local d'ailleurs, qui a d'abord une inquiétude et qui ensuite se pose des questions, mais peut-être positives, sur l'emploi à venir. Le champ de betteraves à Marne-la-Vallée, pas de RER A et des infrastructures routières qui n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui.
Mais vous le disiez, ça pose des questions. Écoutez, Nicolas De Villiers, c'est le président du Puy du Fou, le parc d'attractions créé par son père. Pour lui, l'Arabie Saoudite a une stratégie très claire et le risque pour nous, c'est de diluer notre identité, voire risque d'ingérence. Écoutez.
Je m'étonne de voir que le président de la République française dise « Vous connaissez mon intérêt pour les mangas ». Quand on est le chef d'État d'un pays comme la France, j'aurais préféré entendre « Vous connaissez mon intérêt pour la France et même ma passion pour la France ». Pourquoi aller chercher Dragon Ball quand nous avons en France tout cet imaginaire extraordinaire à proposer au monde ? Faut pas être naïf, l'Arabie Saoudite est un grand pays et c'est un pays qui a une stratégie. Je trouve étonnant qu'au moment même où on nous parle de loi sur l'ingérence étrangère, eh bien tout à coup on laisse l'Arabie Saoudite investir 6 milliards quand en France nous avons des entreprises florissantes qui sont capables, eh bien, de proposer des vrais projets culturels.
Il a raison, Laurent.
D'abord, je parle sous votre contrôle, mais l'Arabie Saoudite est déjà très très présente sur le sol français. Je crois qu'ils sont au capital d'une demi-douzaine d'entreprises du CAC 40. Il y a 3 des plus grands palaces parisiens, oui, qui appartiennent à l'Arabie Saoudite.
Donc dites les choses, on a besoin de l'Arabie Saoudite, c'est ce
non,
que vous dites.
Non, ça veut dire que l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, investit massivement en France, et pas en France seulement d'ailleurs, et que à l'inverse, la France y trouve son compte, pas simplement parce que ça crée des emplois, mais ça permet aussi de diversifier nos sources d'approvisionnement en matière de gaz, en matière de pétrole. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. Et je mets quand même de côté, on n'en a pas parlé, mais la question des droits de l'homme, qui est un
mon
vrai
expression
sujet.
Était malheureuse, mettre de côté, c'est, on va en parler.
On va en parler, oui. Voilà. Il faut en parler. Ça, c'est un vrai sujet. Par contre, pardon, l'exception culturelle française, c'est certainement pas parce que demain, il y aurait un parc d'attractions propriété de l'Arabie Saoudite aux portes de Paris, que ça remet en cause le Puy du Fou, par exemple, ou d'autres, tout notre patrimoine culturel français qui continue à exister, et je crois qu'il séduit près de 100 millions de touristes, oui, étrangers chaque année. Hein.
Bon, toute la question est de savoir s'il y a un marché pour ça, mais ça, évidemment, ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, David, d'être venu sur le plateau du Midi BFM. On va continuer à parler d'argent, beaucoup d'argent, à parler des méga-héritages dans quelques instants. Taxer les méga-héritages pour 15 milliards de rapports de profit, dirait-on,
par an. Est-ce possible, réaliste, intéressant pour les finances publiques? On prend au mot, c'est un des nouveaux rendez-vous du Midi BFM, Raphaël Glucksmann, puisqu'il s'agit d'une de ses propositions. A tout de suite. Pris au mot, Roselyne. C'est le nouveau rendez-vous du Midi BFM. En fait, l'idée, c'est de prendre les politiques au mot sur un engagement de campagne dans la perspective de l'élection présidentielle. Ce matin, on va se pencher sur l'engagement de Raphaël Glucksmann, qui entame d'ailleurs sa campagne ce matin dans le Marais Poitevin pour parler agriculture et gestion de l'eau aux côtés de l'écologiste Yannick Jadot, qui s'est rallié au candidat à Place Publique. Mais c'est sur les méga-héritages que l'on va prendre Raphaël Glucksmann très précisément au mot.
Oui, parce qu'il compte récupérer 15 milliards d'euros par an en taxant les méga-héritages. Écoutez.
Nous sommes en train de devenir une société d'héritiers et de rentiers et qu'il faut que le salaire augmente en France, qu'il faut que les travailleurs vivent mieux du produit de leur travail. Et donc, oui, c'est logique que les méga-héritages contribuent plus à la solidarité et que ça nous permette d'offrir aux travailleurs une augmentation salariale.
Accueille Gaspard de Monclin. Bonjour, avocat spécialisé en fonds d'investissement et président du magazine Le Revue. D'abord, Laurent Neumann, pour Raphaël Glucksmann, un méga héritage, c'est quoi?
C'est plus de 2 millions d'euros. Voilà. Alors, il faut dire que cette idée de Raphaël Glucksmann, elle sort pas de nulle part. Elle est clairement inspirée d'une note de la Fondation Jean Jaurès qui date d'il y a quelques mois déjà, qui parle dans les années qui viennent de la plus grande transmission qu'on ait jamais vécue. C'est les fameux boomers, oui, qui vont, dans les 15 ans qui viennent, transmettre 9 000 milliards d'euros. C'est du jamais vu, c'est quasiment... Gaëtan ne me démentira pas, je crois, trois fois le montant de la dette française. C'est colossal. Okay. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas taxer plus cher les héritages. Il y en a aujourd'hui 85% qui ne sont pas taxés du tout. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut taxer le 1% des héritages les plus élevés. Et que là, oui, par toute une série de mécanismes un peu compliqués, je dois dire, permettrait de trouver jusqu'à 15 milliards d'euros par an.
Donc l'idée, Gaëtan Mélin, c'est de durcir le régime de succession de ces méga-héritages, qui sont certes peu nombreux, mais qui représentent beaucoup d'argent.
Oui, tout à fait. Laurent a parfaitement raison. On rappelle juste un chiffre, 85% des successions aujourd'hui sont exonérées.
Trop basse.
Parce qu'il y a un abattement de 100 000 euros en succession directe, donc pour les enfants, et puis bien sûr les conjoints qui ne payent pas de frais de succession. Donc oui, on est vraiment sur une niche très particulière, une niche qui aujourd'hui, est finalement, pour être un peu plus taxé, on parle d'une fourchette qui pourrait passer de 45% de frais de succession à 50% de frais de succession, ce qui permettrait de dégager pas moins de 3 milliards d'euros supplémentaires. Mais il n'y a pas que ça. Raphaël Glucksmann vise aussi la transmission des biens professionnels, notamment le pacte Dutreil. Vous savez, c'est sur la transmission des entreprises. Voilà. Okay. Il veut, lui, le limiter et s'assurer qu'on ne parle bien que de la transmission de l'outil, oui, professionnel. Vous le savez, on en avait beaucoup parlé dernièrement. Voilà, il y a cette mesure. Et puis, il y a aussi les donations qui sont faites, lorsque l'héritier, pas l'héritier, mais le donateur, finalement, est toujours vivant. Là aussi, il voudrait réformer, l'objectif étant effectivement d'atteindre ces 15 milliards d'euros.
Et il y a un troisième point, très important, c'est qu'il veut taxer, alors là, pour le coup, sévèrement, ce qu'on appelle les plus-values latentes. C'est-à-dire, en gros, vous avez acheté un bien pour 10, au moment de l'héritage, il vaut 100, c'est 90 d'écart. Aujourd'hui, ils sont très peu taxés. Et là, l'idée, c'est de les taxer lourdement. Et c'est là où il va trouver près d'une dizaine de milliards d'euros.
Ouais, sauf que le bien, il a été acheté et avec le produit du travail qui a été taxé. Il y a un côté quand même
injuste. Mais sa valeur a augmenté au moment de le céder par héritage.
Qu'est-ce que vous dites de tout ça, Gaspard de Monclin?
Je suis très choqué. Il faut se rappeler que les Français détestent les droits de succession, et à bon compte, ils les détestent parce que le fait de mourir ne devrait pas générer un impôt. Quand on a travaillé toute sa vie, quand on a payé autant d'impôts pour chaque euro gagné, on va encore voir le fruit de son travail.
Parce que de quoi on parle lorsqu'on évoque ces 1% donc de patrimoine concerné par... De quoi on parle d'entreprise de quelle nature?
Bah, C'est tout type d'entreprise. Une entreprise qui vaut 2 millions d'euros, c'est pas une très grosse entreprise. D'accord. C'est une petite entreprise, c'est une PME. Mais prenons l'exemple le plus caricatural, celui de Bernard Arnault. On la touche comme ça, en tête, une fortune de 200 milliards. C'est énorme, on n'a pas besoin de 200 milliards pour vivre. Sauf que si vous voulez le taxer à hauteur de 50% ou réduire le pacte Dutreil, Bernard Arnault, à son décès, il doit démanteler LVMH. Il doit vendre les titres LVMH. Bernard Arnault, c'est pas l'oncle Picsou qui se réveille tous les matins et qui nage dans sa piscine de billets ou de pièces d'or. C'est quelqu'un dont le 99% du patrimoine sont constitués de titres de société. Donc s'il veut payer cet impôt de 100 milliards, il va devoir démanteler LVMH.
L'objet, c'est d'organiser pour ne pas avoir à payer sa succession en France.
Encore une fois, on prend Glucksmann au mot. Cela nous permettra de récupérer 15 milliards d'euros par an, on est d'accord ?
Oui.
Par an. Et de les transférer directement sur les fiches de paie des travailleurs français.
Alors il faut l'expliquer.
C'est pour moins taxer le travail.
Oui, tout à fait, par la CSG. En fait, l'objectif, ça serait de diminuer la CSG, ce qui permettrait de rapprocher le brut du net. Et c'est l'engagement qu'il prend. C'est-à-dire d'utiliser cette manne financière pour le reporter sur le travail. C'est vraiment nouveau, mais encore faut-il qu'il arrive à récupérer ces 15 milliards d'euros.
Pourquoi y arriver ?
Parce que, en fait, aujourd'hui, si vous annoncez aux contribuables que vous allez les taxer au-delà de 2 millions d'euros, eh bien certains vont mettre des mécanismes en place.
L'optimisation.
Pas que, mais en fait pour éviter justement ce plafond des 2 millions d'euros et pour échapper. Donc au final, les 15 millions d'euros, les 15 milliards pardon, espérés, eh bien ils seront nettement inférieur.
Parce que sur le papier, Gaspard, tous les travailleurs se disent si on baisse la CSG, oui, j'y gagne. L'idée est intéressante.
Non, c'est un tour de passe-passe. Parce qu'en fait, 15 milliards d'euros, le financement des retraites, c'est plus de 300 milliards d'euros par an. Donc on parle vraiment d'une goutte d'eau. On n'arrivera pas du tout à diminuer de manière sérieuse les URSSAF ou tout ce qu'on doit payer sur le brut.
C'est juste la CSG sur le revenu du travail.
Mais Gaspard de Monclin, sur cette annonce, si cette décision est prise, comment les entreprises concernées vont l'anticiper ? Est-ce qu'elles peuvent optimiser pour essayer d'y échapper, ou est-ce qu'elles peuvent
changer de résidence fiscale.
C'est un cliché, mais changer de résidence fiscale ou déplacer leurs activités.
Évidemment qu'elles le feront. Elles peuvent le faire très facilement aujourd'hui en Europe. Il faut se rappeler qu'on est dans une concurrence avec les autres pays de l'Union européenne. On est déjà dans l'OCDE sur 32 pays, le pays classé 32e sur la taxation professionnelle et personnelle. Bravo pour ce palmarès. Donc évidemment, les Français n'en peuvent plus d'être imposés en permanence alors que l'État ne fait pas les efforts budgétaires pour réduire son déficit.
Mais il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête et il est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que le travail finit par poser un problème aux jeunes générations. Aujourd'hui, le travail est taxé à hauteur de 46%. C'est colossal. L'héritage, en moyenne, n'est taxé qu'à 6%.
Oui, mais pour l'obtenir, ils vont travailler avant.
Et c'est pas tout. Le capital, les revenus du capital, eux, parce qu'il y a un prélèvement forfaitaire unique, ne sont taxés qu'à hauteur de 30%. Donc, il y a 16 points d'écart entre les revenus de votre travail et les revenus de votre patrimoine. Oui. Donc, c'est colossal comme écart. Et c'est là où il y a peut-être un jeu à opérer, justement pour que le travail paye plus et qu'on puisse à nouveau s'enrichir par le travail, ce qui n'est plus du tout le cas en France.
Laurent, on est parfaitement d'accord, sauf que le déficit pour les retraites, il ne vient du modèle de retraite qu'on a. Il ne vient pas d'une absence de taxation des milliardaires.
C'est un deuxième problème. L'essentiel de tout notre modèle social repose presque exclusivement sur le travail. Et donc là aussi, il y a peut-être des transferts à faire. Donc en fait, cette question que Glucksmann évoque à propos de l'héritage, c'est une question beaucoup plus vaste sur notre rapport au travail et à la richesse.
Est-ce que c'est une mesure qu'aurait pu valider ou que peut valider la France insoumise ?
Oui, je pense.
Est-ce que ça parle à l'aile gauche du Parti socialiste ?
La réponse est clairement.
Est-ce que ça figurera, puisqu'il va falloir qu'il s'y soumette s'il gagne la primaire, est-ce que ça figurera dans le programme du Parti socialiste ?
Si Raphaël Glucksmann emporte cette primaire, la réponse est assurément oui, et elle sera sans doute dans le programme du Parti socialiste si ce n'est pas lui, parce que je le répète, cette idée, elle est née d'une note assez complète de la Fondation Jaurès, qui est le grand think tank plutôt classé à gauche et dont le Parti socialiste s'inspire.
Est-ce que c'est pas de la politique et un signal à la gauche de la gauche en plein débat sur les ultra-riches lancé notamment par LFI, on en parlait il y a une demi-heure.
Oui, c'est une façon pour Raphaël Glucksmann de montrer qu'on peut être de gauche sans être absolument radical. Et cette mesure, vous voyez, il y a quelques minutes, on parlait de la phrase de Manon Aubry qui traitait les milliardaires de nuisibles. Vous voyez la différence entre une gauche ultra-radicale et une gauche qui propose quelque chose, avec lequel on peut être en désaccord d'ailleurs, mais qui au moins propose quelque chose dont le but du jeu, je le répète, est de renchérir le travail, faire qu'on gagne sa vie en travaillant.
Gaspard, vous avez une vision d'ensemble. Est-ce qu'en Europe, si cette mesure était décidée, mise en œuvre, ça placerait, ça confirmerait en fait le classement de la France dans les pays où l'on taxe le plus les entreprises?
Évidemment, les entreprises et les personnes. Et donc, ça va décourager l'entrepreneuriat. Imaginez 2 millions d'euros. Mais c'est pour une entreprise, c'est très peu de valeur. Oui. C'est un tout petit peu de chiffre d'affaires. Tous les artisans, toutes les PME qui nous écoutent, qui nous regardent, eh ben, c'est leur fruit de tout leur travail. C'est leur seul patrimoine qui disparaîtra.
Oui. L'avantage de cette mesure proposée par Raphaël Glucksmann aujourd'hui, c'est qu'elle est un peu sensée par rapport à la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qui est de taxer 100% dès lors que la succession dépasse les 12 millions d'euros, ce qui est confiscatoire et juridiquement de toute façon impossible, alors que cette proposition de Raphaël Glucksmann, qui mérite encore d'être précisée, eh bien, effectivement, elle pourrait, elle, en tout cas, être validée par un certain nombre des députés et surtout par le Conseil constitutionnel.
Donc c'est la course à l'échalote fiscale.
Mais on est en campagne présidentielle.
Mais bien sûr, et comme pour François Hollande en 2012, ça ne sera pas appliqué si, dans pure politique fiction, il arrivait au pouvoir.
Oui, et je rajoute aussi que c'est important ce débat pour la cohésion sociale. Parce que l'idée, c'est pas de pointer du doigt les milliardaires ou les gens ultra riches en disant c'est des nuisibles, c'est des gens infréquentables, il faut les supprimer. Non, c'est de remettre un peu d'équité dans la propriété, le patrimoine de la richesse nationale. Et quand vous ne pouvez plus vivre de votre travail, bah c'est à ce moment-là qu'on commence à se diriger vers les formations politiques les plus radicales.
On prend Raphaël Glucksmann au mot, cette idée de taxer les méga héritages pour obtenir 15 milliards. Possible ou pas, bonne idée ou pas, chacun votre tour, Gaspard.
Très mauvaise idée, et c'est absolument impossible, parce que arrivé au pouvoir, la réalité économique, la pesanteur économique s'imposerait à lui. Il ne le ferait pas, parce qu'il verrait toutes les entreprises partir, ou les chefs d'entreprise s'organiser pour ne pas avoir à la payer, c'est impossible.
Laurent Neumann.
Très bonne idée, parce qu'elle ne concerne que 1%, je le répète, des successions, donc vraiment des gens qui ont un patrimoine absolument colossal.
Gaëtan Mélin.
Mauvaise idée, car elle va inciter les entreprises à faire encore plus d'optimisation fiscale pour ne pas arriver à ce plafond des 2 millions.
Nous prenons les politiques au mot dans le Midi BFM, et c'est important, évidemment.
Et vous ferez votre opinion.
Dans un univers où tout le monde dit tout et son contraire, où les formules vont bon train, etc., etc. Non, on va écouter les mots, les décrypter et mettre ces mots à l'épreuve des faits. Merci beaucoup, Gaspard, d'être avec venu sur le plateau du Midi BFM. L'espace.
L'espace, avec Sophie Adnot qui va retenter une sortie dans le vide sidéral avec ses images de la NASA. Comme la semaine dernière, il y a une semaine tout juste, pour sa première sortie. Elle est en pleine préparation. On va en parler avec Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Jean-Luc Dauvergne, journaliste scientifique Ciel et Espace. En fait, là, Jean-Luc, ce sont ses collègues qui sont en train de l'aider à mettre ce colossal scaphandre avec son coéquipier américain.
Oui, exactement. La phase de préparation avant la sortie est assez longue. C'est vraiment des heures et des heures. Donc, il y a une phase de mettre la combinaison. La combinaison, c'est pas simplement une combinaison. En fait, il y a plusieurs couches. Il y a notamment une couche qui sert à avoir des circulations de fluides qui vont permettre de réguler la température. Du côté du soleil, il fait de l'ordre de 130 degrés et du côté ombre, il fait moins 120 degrés. Donc, c'est super important. C'est complètement vital. Et puis, la combinaison elle-même, l'ensemble, ça fait 140 kilos. Donc, c'est un sacré truc à enfiler. Et puis, dans la phase de préparation, il y a aussi une phase où les astronautes se mettent à respirer de l'oxygène pur pour débarrasser leur corps de l'azote. Sinon, ils seraient victimes de l'équivalent d'un accident de décompression en plongée. Quand on remonte trop vite, on peut avoir des bulles d'azote qui se forment dans le sang. Donc là, en respirant de l'oxygène pur, ils vident leur corps de tout cet azote.
Marie-Ange, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Parce que cette sortie, finalement, elle n'était pas prévue.
Alors, il y avait bien une sortie qui était prévue aujourd'hui, mais ça n'était pas du tout pour s'occuper de cette antenne. En fait, la semaine dernière, l'antenne qui est actuellement en panne, enfin qui était en panne et qui était sur la station, a été très difficile à détacher. Elle a été particulièrement récalcitrante. Ils ont eu des problèmes avec le câble d'alimentation, ensuite avec les boulons, parce que c'est des questions thermiques. Les boulons étaient très serrés, ils ont eu du mal, ils se sont battus avec. Et en fait, le temps qui était prévu de 6h30 pour démonter l'antenne, la placer à un endroit provisoire, mettre la nouvelle et ensuite aller prendre l'ancienne antenne et aller la fixer définitivement à son, on va dire, son, son lieu de poubelle, entre guillemets, tout ça, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont perdu beaucoup de temps à essayer de détacher l'ancienne et finalement, ils n'avaient plus de temps pour s'occuper de la nouvelle. Donc, ils ont sécurisé l'ancienne avec des sangles, ils l'ont attachée pour qu'elle tienne une semaine, voire plus même. Et puis, ils ont réattribué cette sortie du 25 août à la fin de la tâche qu'ils avaient commencée la semaine dernière.
Opération, Marie-Ange, quand même extrêmement complexe. Pendant qu'on parle, on va revoir l'animation qui avait été créée par la NASA qui montre qu'il y en a un qui est au bout du bras robotique, l'autre qui ne tient qu'avec un fil de vie. Complexe et dangereux, faut pas l'oublier.
Toute sortie extravéhiculaire est complexe et dangereuse. Il faut bien comprendre, c'est comme si vous étiez sur une via ferrata, vous avez deux câbles avec deux mousquetons. Si vous lâchez ces deux mousquetons, vous vous retrouvez à quitter la station. Alors attention, ça n'est pas brutal, mais vous vous éloignez de la station. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un petit système avec les scaphandres américains qui s'appelle le Safer. On était d'ailleurs en train de voir l'installation de ce Safer. On voyait deux branches avec un espèce de pack carré en bas. C'est le Safer. Ce sont deux petits moteurs qui permettent de revenir très rapidement à la station et de s'y réattacher. Donc toute sortie est dangereuse, périlleuse et très fatigante.
C'est ce qu'elle a dit d'ailleurs, Sophie Adnot. Jean-Luc, elle est ravie d'y retourner, mais malgré des heures et des heures de préparation en piscine avec ce fameux scaphandre dont vous nous parliez, c'est très très physique.
C'est extrêmement physique. La dépense d'énergie, elle est souvent comparée à une ascension en montagne de 2000 mètres de dénivelé, sachant que n'importe qui va en montagne, au-delà de 800, 1000 mètres, on commence à le sentir quand même. C'est quasiment la dépense d'un marathon. En fait, ce qui est particulièrement physique, c'est que la combinaison est assez rigide, notamment la manipulation des objets avec les mains. Les gants sont très rigides et chaque pression d'un outil, d'une perceuse, d'une dévisseuse, etc., va demander vraiment un effort physique réel. Et puis, le corps est un peu sans cesse en tension, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Terre, il y a la gravité qui permet de vous caler. Là, dans le vide, en fait, ils ne sont pas calés. Alors, le collègue de Sophia Adnot, lui, au bout du bras robot, il est calé par ses pieds. Ça l'aide. Par contre, elle est vraiment en apesanteur. C'est un peu, pour les gens qui pratiquent la plongée, imaginez-vous essayer de vous caler pour photographier un poisson. En fait, ça a l'air simple dit comme ça, mais ce n'est pas si simple. Et toutes les manipulations comme ça, il faut réussir à caler son corps et ça demande des efforts sans cesse pour s'ajuster.
Marie-Ange, où sont les outils? Parce que, alors, ils sont deux, il y en a un qui opère et puis l'autre qui l'assiste, si j'ai bien compris. Où sont les outils? Parce qu'il ne faut pas les lâcher, évidemment, ces outils dans l'espace. Parce que le moindre objet dans l'espace, ça devient un réel danger pour tout ce qui croise dans l'environnement de la Station Spatiale Internationale, notamment les satellites.
Tout à fait. En fait, tous les outils sont attachés à leur combinaison ou sont dans une caisse à outils et attachés dans la caisse à outils qui elle-même est attachée à la station. En fait, tout est attaché ensemble parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre quelque chose. Alors, malheureusement, ça arrive assez régulièrement. Ils perdent un outil, mais dans la mesure du possible, on essaie de tout bloquer, de tout avoir au bout d'un câble, en fait, avec un mousqueton. Voilà, c'est vraiment très, très important de ne pas perdre des morceaux. D'abord, parce que si vous n'avez pas l'outil qu'il vous faut pour pouvoir démonter, faire la réparation, quoi que ce soit, ça veut dire que votre sortie ne sert plus à rien, vous êtes obligé de rentrer. Donc, c'est très précautionneux, c'est très minutieux, et en plus, comme ils sont dans des scaphandres qui sont difficiles à manipuler, des mains qui sont dans des gants qui sont extrêmement durs. Donc tout ça fait que on doit faire très très attention.
Nouvelle sortie qui va démarrer dans une heure pile, ce sera évidemment à suivre en direct sur BFM TV. Et c'est pour ça que tout est absolument chorégraphié. Ils ont répété chaque geste, Marie-Ange.
Alors, ils ont répété chaque geste, mais c'était pour celle de la semaine dernière. Là, alors, ils connaissent exactement ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'ils devaient faire la semaine dernière, d'installer la nouvelle antenne, ça, ils le savent très bien. En revanche, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que l'antenne qu'ils ont dû attacher un petit peu en urgence avec les moyens du bord, ça n'était pas chorégraphié. Et en fait, le sol leur a dit… écoutez, faites comme vous pouvez. On vous suggère de peut-être l'attacher comme ça, mais voyez ce qui est le mieux. Et ça a été extrêmement épuisant parce qu'il a fallu tester des façons d'attacher cette antenne à l'endroit où il l'avait enlevée, en fait, alors que ça n'était pas prévu pour. Donc, ça a été source de perte d'énergie, de fatigue. Et là, La deuxième partie est chorégraphiée, oui. Et puis, s'ils arrivent à le faire très vite, s'il n'y a pas encore des surprises comme la semaine dernière, peut-être qu'ils pourront faire des tâches supplémentaires.
Parce que j'ai été surpris, effectivement, Marie-Ange, par la durée de la mission. On prévoit là, cet après-midi une mission de 6 heures. C'est beaucoup, hein, 6 heures dans l'espace. Et puis, j'ai une autre question à vous poser, hein, Marie-Ange. Est-ce que les choses s'abîment plus vite dans l'espace que dans l'atmosphère traditionnelle pour qu'on soit obligé de remplacer cette antenne qui est pas une antenne anodine, hein, puisqu'elle permet la transmission, je crois, d'informations haut débit entre la station spatiale et la Terre?
Bah, en fait, ça finit par s'user. C'est du matériel pour certains qui ont 15, 20 ans. L'espace est quand même un peu rude, hein, c'est pas très agréable. Comme le disait Jean-Luc Dauvergne, on passe d'un moins 120 à un plus 130. Donc c'est chaud, froid, 16 fois par jour. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 16 levées de soleil par jour. Donc ça prend des coups thermiques en permanence. Alors il n'y a pas de rouille. Ça, c'est, il y a au moins ça, on n'a pas de rouille. Mais ça finit par se fragiliser, les composants électroniques se fragilisent. Et puis quand ça a une vingtaine d'années, des composants électroniques, ils arrivent un peu au bout, ils peuvent être obsolètes. Donc on change, on modifie. C'est ce qu'on a fait par exemple avec les panneaux solaires. Thomas Pesquet avait fait des sorties pour ça. On change les panneaux solaires pour en mettre des un peu plus petits et surtout beaucoup plus performants. Donc, c'est en fait, on rénove la station à coups de petits morceaux.
Les organismes qui vont souffrir aussi. On a ces images en direct, Jean-Luc, où on voit là, en fait, ils sont en train, tous les deux, Sophie Adnault et son coéquipier américain, de rentrer dans le sas qu'on va fermer. Et c'est de là qu'ils ouvriront la trappe pour sortir. Expliquez-nous.
Oui, voilà. Du coup, ce sas, c'est là où se passe la phase que je décrivais tout à l'heure, où il va y avoir un changement de pression et une mise en oxygène dans une atmosphère d'oxygène. Donc ça, là, c'est la phase d'adaptation du corps avant de sortir dans le vide. Quand ils sont dans le vide, la pression dans le scaphandre, elle est seulement de un tiers de la pression atmosphérique, c'est l'équivalent de la pression qu'on a au sommet de l'Everest. Donc il faut avoir aussi en tête que ce genre de conditions, c'est aussi ce qui soumet le corps à un certain stress. J'en reviens à la plongée, encore une fois, pour les gens qui font de la plongée, si vous restez trois quarts d'heure sous l'eau, quand vous ressortez, vous sentez une certaine fatigue, c'est le fait d'avoir subi des variations de pression dans le corps. Et là, pour eux, c'est une variation de pression qui est quand même assez rapide, assez forte, et puis se mettre à respirer de l'oxygène pur, plus tous ces gestes physique, être contingenté sur la quantité d'eau qu'on peut boire, c'est tout un tas de choses qui rendent l'opération vraiment lente et difficile. Et donc là, après cette phase d'habituation à la faible pression, ils pourront enfin sortir dans l'espace et avec des gestes très méticuleux comme on a pu voir la semaine dernière.
Voilà, c'est vraiment ses coéquipiers qui font se retourner Sophie Adnault pour la faire rentrer dans le sas dans le bon sens. On a cette impression de flottement, y compris à l'extérieur, comme si c'était très léger. On oublie qu'ils sont à une vitesse absolument folle, Jean-Luc.
Oui, c'est la station spatiale, c'est plus de 28 000 km/h, donc c'est un tour de la Terre toutes les 90 minutes. C'est des vitesses qu'on a un peu du mal à s'imaginer, et c'est complètement fou de se dire qu'on peut être. Enfin, ça viendrait à l'idée de personne de sortir d'un avion en pleine vitesse, ça marcherait pas. Mais là, vu qu'on est dans le vide, on peut le faire, et on fait ça à une vitesse complètement dingue. Donc c'est aussi ce qui procure aux astronautes un peu ce vertige d'être à l'extérieur de la station, et c'est aussi particulier aussi pour le cerveau, pour l'oreille interne. Alors on sait que Sophie Adnault est particulièrement résistante en termes de mal de l'espace, c'est ce vertige qu'on peut avoir hein, dans le mal des transports ou dans un bateau, qui est vraiment accentué dans la station spatiale internationale avec l'absence de gravité et avec la sortie extravéhiculaire, de voir la Terre qui défile en dessous, les mouvements de la station elle-même. Tout ça, c'est compliqué pour le cerveau. Et donc, il faut que les astronautes aient des bonnes qualités de ce côté-là. Parce qu'évidemment, s'ils venaient à avoir la nausée à l'intérieur du scaphandre, ce serait dramatique. Donc, ça fait partie des choses vraiment surveillées. Il y a des équipes médicales qui surveillent ce qu'ils font, qui surveillent leur état. Tout est vraiment très, 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 très surveillé.
Et suivre tout ça évidemment en direct sur BFM TV. Donc Roselyne le disait, dans un peu moins d'une heure maintenant, la sortie dans l'espace, édition spéciale sur BFM dès 14h15, et on vous y retrouvera évidemment tous les deux. L'autre grand titre de l'actualité nous ramène au plancher des vaches et à ces intempéries, cette tornade majeure donc qui a traversé le département de l'Aude et particulièrement le petit village de Poma. On est en plein dans les Corbières.
Avec un paysage de désolation hein, pour les habitants, ils sont un millier
blessés, 40 blessés. Il y en avait deux en urgence absolue. Les nouvelles sont plutôt rassurantes, mais dans quel état se retrouve le village, hein? Les sinistrés qui parlent de scènes de guerre. Marie Roux, justement, on vous retrouve avec certains d'entre eux et ces images folles.
Oui, exactement. On est avec Christopher et Émilie et on est devant leur maison, ou du moins ce qu'il en reste. On voulait vous montrer leur voiture pour commencer. Regardez cette voiture, elle a totalement été soufflée par la tornade et cette tuile qui s'est bloquée dans la portière. Le pare-choc est totalement brisé, sans vous parler des dégâts qui sont considérables à l'intérieur de la maison. On est avec Christopher et Émilie. Émilie, racontez-nous un peu comment ça s'est passé, vous qui étiez à l'intérieur de la maison, justement, moment de la tornade.
Eh bien, en fait, j'ai commencé à regarder le temps dehors. J'ai vu que le ciel était noir, donc je m'attendais à ce qu'il y ait un gros orage. Mais d'un seul coup, j'ai commencé à avoir des débris, surtout des plastiques et des feuilles volées. Et étant fan de tornade, j'ai reconnu les signes. Et d'un seul coup, en fait, on vous voyait un tourbillon comme ça, avec des feuilles, des débris et c'est du sable. Et là, vous savez que c'est pas normal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes chats et je suis partie me réfugier dans la baignoire parce que c'est la seule pièce où il n'y a pas de fenêtre. Donc, c'est la seule pièce où je pouvais être en sécurité. Et j'ai bien fait parce que quand on voit l'état de toutes mes fenêtres qui ont explosé de l'intérieur, je pense que c'était le mieux à faire.
Émilie, on va se rapprocher un peu. Je vous laisse aller devant parce que à l'intérieur de la maison, eh bien, a été vraiment touché également, notamment par la force de cette tornade, la puissance de cette tornade. Christopher, quand vous voyez l'état de votre maison, comment on sent, quel est le constat?
Ah ben, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit waouh, ça fait peur. Là. Du coup, comme ma femme était toute seule, du coup, j'ai fait vite pour venir et quand j'ai vu les résultats, ça m'a fait vachement peur.
Parce que justement, ce que vous me disiez, Émilie, c'est qu'avant, juste ici, juste devant, il y avait une véranda.
C'est ça. Donc en fait, à partir d'ici, vous aviez une véranda qui faisait tout le long et qui faisait toute l'entrée. J'avais des meubles, arbres à chat et tout ce que vous voulez dans la véranda. J'ai plus rien. Et avec la force du vent, ça a explosé la porte d'entrée qui, du coup, ça a explosé mon frigo jusqu'à l'entrée.
Jusqu'à l'entrée, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a une tuile de la maison qui a réussi à traverser la porte d'entrée ainsi que l'intérieur.
Oui, parce que du coup, ça a atterri ici. Après, derrière, j'avais une pergola avec un spa et tout.
Vous m'allez derrière. Oui, tout s'est envolé. C'est assez impressionnant. Ça a duré qu'une fraction de seconde, quelques minutes.
Ça a dû durer peut-être 3-4 minutes, pas plus. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de clôture. Tous les volets sont explosés. Là, il y avait une pergola avec un spa. Il n'y a plus rien. Là, il y avait une arche en bois. Il n'y a plus rien. Derrière, j'ai un cabanon où je rangeais tous mes outils. Le toit, il n'y en a plus. Toutes les tuiles sont tombées. La porte est défoncée. Tout est retourné, quoi.
Tout est retourné. Impossible de dormir à l'intérieur de la maison parce qu'il n'y a plus de chambre.
Il n'y a plus de toit, en fait. Il n'y a plus du tout de toit. Il n'y a plus aucune tuile. Il n'y a plus de laine de verre. Il n'y a plus rien. Vous allez dans la maison, vous voyez le ciel. Donc non, on ne peut pas dormir dans la maison. Ce n'est pas possible. Entre les fenêtres, il n'y a plus. Il n'y a plus de volets. Il n'y a plus de toit. Donc non, ce n'est pas sécuritaire.
Donc, vous sent démunis. Et on comprend aussi pourquoi. C'est affreux, entre guillemets, l'état de votre maison. Vous habitiez ici depuis pas très longtemps. Quel est le programme? Quelle est la suite pour vous? Vous avez lancé les démarches, comment ça va se passer?
On a lancé les démarches, on espère que l'assurance va indemniser rapidement pour qu'on puisse se reloger. Là, le plus important tout de suite, c'est de trouver un endroit pour stocker le reste de nos affaires. Parce que là, ça pose problème. Et de trouver quelqu'un qui a un camion qui peut venir aider aussi pour qu'on puisse déplacer tout. Parce que là on ne sait pas quoi faire.
Et quand vous voyez l'état du jardin d'Émilie et Christopher, on se dit que vous avez eu beaucoup de chance finalement de pouvoir survivre à cette tornade. Émilie le racontait, elle s'est réfugiée dans sa baignoire. Et elle me disait, quand on parlait juste avant ce direct, qu'elle avait vu ça aussi dans les films, dans les séries. On voit ça notamment aux États-Unis. Beaucoup de gens nous disent qu'on a l'impression que ce qui s'est passé, c'est comme ce qui se passe aux États-Unis. Et de votre maison, en plus, on a vu sur le château, il me semble, c'est l'emblème du village. Et ce château, vous le voyez, la moitié de la structure a été totalement soufflée par cette tornade qui a duré que quelques minutes.
Merci beaucoup Marie, merci également Émilie et Christopher. Ouais. Je voudrais que vous reveniez vers la voiture peut-être d'Émilie.
Oui, parce que alors ce qu'il faut dire, Marc, d'abord, parfois les journalistes abusent de formules toutes faites. Mais là, lorsqu'on a dit et répété que ça ressemblait à des images de guerre, c'est le cas. On a l'impression vraiment qu'un bombardement est survenu sur cette partie du village. Et certains de nos objets, et notamment tous ceux qui traînent, je pense au mobilier de jardin, par exemple, aux clôtures, peuvent devenir, alors je crois que vous employez ce mot dans votre langage météo, des missiles potentiels.
Oui, en tout cas des débris, en fait. Hein. Le vent va transporter de véritables projectiles. Donc, c'est vrai qu'une tuile, en apparence, bon, la tuile s'envole.
Et regardez, sur l'image incroyable de Valentin Rivollier, là, à l'instant, cette tuile transformée en projectile au point de perforer la carrosserie.
Absolument, parce qu'en fait, vous avez une forte poussée aérodynamique. Hein. Cette tuile, elle va prendre l'équivalent, peut-être, si elle, en fonction de son poids, elle peut avoir une force de 20, 30 kilos, voire davantage. Donc, c'est vrai que ces projectiles, hein, lorsqu'ils sont transportés, soufflés par le vent, des vents qui ont pu peut-être localement atteindre les 200 à 260 km par heure, parce qu'on considère que c'est une, sans doute, hein, ça sera une tornade de catégorie 3, eh bien, en effet, ces projectiles peuvent faire d'importants dégâts. Et fort heureusement, il n'y avait pas d'humain, personne n'est passé à cet instant, parce que sinon, cette personne aurait été gravement blessée.
Nous sommes avec Maxime Villaès. Bonjour Maxime, vous êtes photographe et chasseur d'orages, et vous étiez hier à Poma. Mais comment ça, vous étiez à Poma? Vous aviez anticipé que la tempête, que la tornade passerait par là d'abord?
Bonjour. En fait, oui, au niveau des prévisions, elles étaient annoncées assez, on va dire, favorables pour des phénomènes tourbillonnaires et des orages particulièrement violents. Avec un ami, on s'est rendu sur place, on s'est approché de Carcassonne. L'orage était déjà en train de prendre de l'ampleur. Et on était positionné juste entre Carcassonne et l'autoroute A61 du côté de Trèves. Et à ce moment-là, oui, on a pu observer l'évolution de cet orage isolé, en fait, qui on peut dire, voilà, une super cellule qui était vraiment d'apparence très très impressionnante. Et les mouvements étaient, on va dire, il y avait vraiment une atmosphère qui est différente par rapport aux orages qu'on a l'habitude de voir en France quand l'orage se prépare à faire une tornade. On appelle ça un orage tornadique. Il y a vraiment des mouvements très rapides et on a vu la tornade à peu près une quinzaine de kilomètres. On était assez éloigné parce que la géographie faisait que le terrain était difficile, très boisé, très vallonné avec des montagnes. Et on l'a aperçu au loin. C'était ensuite essuyé l'orage. On a essayé de repartir vers l'est avec
Maxime,
ce système orageux. Oui.
Cette tornade, pour vous, elle avait. Oui. Elle a quelles caractéristiques? Est-ce que on est vraiment entré dans un type de phénomène que l'on auquel on va devoir s'habituer en France?
En fait, on est déjà en France. Il y a déjà des cas de tornades, on va dire une moyenne d'à peu près d'une trentaine de tornades par an. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'évolution. Déjà, si on veut parler par rapport au réchauffement climatique, il n'y a pas d'impact au niveau de cette échelle-là, même au niveau de l'intensité des orages et de certains phénomènes qui les accompagnent. Des tornades violentes, on en a déjà eu beaucoup en France. Et on va dire au niveau de ce siècle, se rappeler de la tornade de Haumont en 2008. C'était une tornade classée EF4, étorchée, la plus récente aussi EF3, avec aussi Bicourt dans le Nord-Pas-de-Calais, une tornade qui a couru de à peu près plus de 80 km et qui a fait des dégâts considérables. Et là, on peut dire qu'on est sur une tornade en fait qui est aussi extrêmement marquante, qui fait partie de ces tornades les plus marquantes, on va dire, du 21e siècle, parce qu'elle a vraiment été à la fois visuelle, parce qu'elle s'est produite en pleine journée, et qu'elle a touché une ville de plein fouet, en fait. Voilà.
Ouais, le département qui n'avait pas vu ça depuis 60 ans. Vous allez chaque année aux États-Unis. Il va falloir se préparer à voir ce genre de phénomène de plus en plus souvent et de plus en plus violent.
En fait, comme je le disais, c'est des phénomènes qui se sont déjà produits sur les siècles, aussi sur des siècles précédents. On a des cas très bien documentés sur le site de Quéronin, c'est l'Observatoire français des orages et des tornades, où ils ont une base de données avec toutes les trajectoires des tornades en France depuis en fait le début du recensement, qu'il y a de la documentation et des témoignages, on va dire même très anciens.
Et, tornade, Maxime.
Oui.
Cette tornade, elle avait, pour vous, enfin, on n'a pas encore tous les éléments, mais elle avait quelles caractéristiques? Par exemple, est-ce que vous savez évaluer la vitesse du vent au cœur de cette tornade?
Alors, quand on est face à une tornade, c'est particulièrement difficile. Après, quand on voit après les dégâts, quand on est revenu sur place pour, en fait, on va dire faire une enquête à titre de bénévolat hein, pour cet organisme, pour avoir des données, pour pouvoir classifier après les tornades, parce que c'est grâce à ces dégâts qu'on arrive à donner une échelle et après à établir une climatologie en France, ce qui aide énormément pour la prévision. On peut déterminer, mais pour l'instant, c'est plutôt à Quirónos, cet organisme spécialisé qui pourra dire le dernier mot, je pense, au bout de quelques jours ou quelques semaines après vraiment des études précises. Mais on peut dire qu'on n'est pas en bas de l'échelle et qu'on pourrait se rapprocher sur une tornade en termes de, sur l'échelle fluvial améliorée de peut-être EF2, EF3. Mais je veux pas me prononcer plus pour l'instant parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments.
Pour les téléspectateurs, ça veut dire quand même des vents à 250-300 km/h. Vous restez avec nous, Maxime. On va retourner à Poma avec Jean-Wilfried Forquès, les habitants qui parlent d'apocalypse. Il est avec un retraité qui a retrouvé sa maison aujourd'hui et qui découvre l'ampleur des dégâts.
Oui, nous sommes revenus ce matin avec Alain à son domicile. On s'était rencontrés hier soir à 21h. On était ensemble dans l'émission de Maxime Switek. Vous me disiez, j'ai peur de retourner chez moi demain et on y est.
Ouais, on y est, c'est catastrophe. Et plus rien. C'est l'après-coup. Au départ, on se dit, t'es vivant, tout va bien. Et là, quand tu reviens, c'est la cata.
C'est la maison d'une vie. Vous y avez passé 15 ans déjà ici.
Oui. On a fait un petit coin de paradis, hein, piscine, super maison, on a tout fait super bien.
Et puis d'un coup, patatras.
Et en deux minutes, plus rien. Fini.
Vous étiez à l'intérieur, là.
Oui, là.
Les vitrées.
Exactement là.
Là où il y a votre ami Didier qui vous a hébergé cette nuit.
Oui.
Les vitres sont parties en éclats, c'est ça?
Oui, ça a explosé. Littéralement, ça m'a projeté au milieu du salon. Heureusement, c'était... Moi, je me suis retrouvé sur le ventre, hein, je veux dire.
Vous avez rompé.
Oui, j'ai dit à ma femme, il faut à tout prix qu'on descende. Et il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien, tout était noir, quoi. On a rompé, on est descendu un escalier. Et on s'est abrité sous l'escalier en béton. Parce que là, tout partait, quoi. Mais ça va tellement vite. Je veux dire, j'ai passé toute la nuit à
revoir les images.
C'est fou, quoi.
Et maintenant, il va falloir reconstruire?
Oui. Ça va faire un nouveau challenge. Une nouvelle aventure qui commence. Mais bon, pour l'instant, c'est difficile.
Et on vous dit en tout cas, bon courage, immense courage pour ce combat.
Après, les gens ici autour, c'est la solidarité. Hein. Les gens, on les découvre. Au départ, on ne les connaît pas. Et après, tous ces gens viennent vous aider, vous réconforter. C'est super. Et surtout super quand on a des amis, puisque nous, on a la chance d'avoir des amis.
Qui vous ont hébergé la nuit dernière. Voilà ce qu'est l'histoire d'Alain. Mais des histoires comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines ici, vous le voyez. Ici. Tout a été rasé, tout a été emporté en l'espace de quelques minutes, par cette tornade absolument terrible ici à Poma.
Une pensée pour tous les habitants de Poma. Il y a un peu plus de 1000 habitants à Poma, 300 maisons plus ou moins touchées donc par cette tornade. Yanamis, ma question est toute simple. Enfin, toute simple, la réponse n'est peut-être pas forcément. Est-ce que les conditions météo risquent d'être de nouveau réunies dans les heures ou les jours qui viennent pour qu'un phénomène météo identique se produise?
Alors, pour répondre de façon simple et rapide également, on est dans une configuration à partir de jeudi avec les mêmes conditions d'instabilité dans au niveau atmosphérique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cisaillement, on a une nouvelle ligne instable qui se dirige, on va dire, vers la vallée du Rhône. Et cette fois-ci, le risque sera plus localisé, on va dire, sur la partie ouest Carcassonne et tout le bas, on va dire, de la vallée du Rhône, quasiment jusqu'à Lyon pour la partie la plus nord. Donc, on est encore, en fait, un risque de phénomènes tornadiques qui existent, qui est bien présent, qui est bien matérialisé par les paramètres météorologiques de nos modèles. Ensuite, ça reste un risque. Ça ne veut pas dire que si on a un risque, on aura un phénomène tornadique, mais malheureusement, le potentiel est là.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, se protéger, nous, c'est compliqué, on sait que c'est localisé, imprévisible, mais si on voit que ça arrive, sa maison, c'est utile d'essayer de la protéger ou c'est tellement fort que ça ne sert à rien?
Alors, ce que l'on peut faire, c'est déjà suivre les précipitations et notamment l'activité orageuse à très haute résolution. On a des systèmes pour cela, pour surveiller, on va dire, l'activité orageuse. On le voyait très bien, notamment le système orageux qui s'est déplacé sur les Bouches du Rhône, sur Carcassonne, Béziers, et le système orageux qui s'est déplacé sur la vallée du Rhône, on pouvait le suivre, et c'était impressionnant, on va dire, à la fois en termes d'impact, de précipitation. Et plus les précipitations sont importantes, et quand on détecte certains seuils de précipitation, on peut imaginer que c'est de la grêle, en fait. Donc, on a déjà ce genre d'informations. On peut les suivre en temps réel. Effectivement, aujourd'hui, à 40-50 minutes, on a cette information à disposition. Il faut la consulter, c'est tout.
Mais Yann, de façon très concrète, est-ce que, bon, on va savoir où se trouvent grosso modo ces cellules orageuses. Est-ce qu'il faut dire aux gens qui nous regardent, bah, il faut fermer les volets avant de partir bosser, il faut scotcher, peut-être comme on le voit parfois aux États-Unis, les baies vitrées. Quelles sont les mesures simples qui peuvent permettre peut-être de limiter les dégâts?
Bah, en fait, en risque orageux, hein, on est tous livrés à la même approche. Quand on sait qu'on est devant un risque orageux, bon, ce que l'on va faire, on va observer, hein, comme font les chasseurs d'orage. Ils observent, ils pistent en fait les systèmes orageux, et on voit dans l'intensité, dans le nombre d'impacts, on est plus ou moins en fait devant un système très, actif. Donc plus c'est actif, plus le phénomène risque d'être dangereux. Donc quand on est en approche de ce genre de phénomène, oui, il faut prendre ses dispositions, c'est-à-dire pour ramasser son matériel et je dirais se mettre effectivement à l'abri. Après, de là à voir une tornade, c'est compliqué à anticiper, ça c'est clair.
Il faudrait évacuer ?
Non. Le système, en fait, les systèmes météorologiques aujourd'hui ne peuvent pas anticiper, comme on le voit sur les États-Unis, le caractère tornadique. C'est-à-dire que quand on est en système visuel d'une tornade, effectivement, il ne faut pas rester en proximité, oui. Il faut s'éloigner le plus rapidement possible. C'est clair.
Merci beaucoup à tous. Prudence et évidemment, courage aux habitants de Poma. On y revient dans un instant sur BFM TV. Spécial aussi, Sophie Adnaud, dans le vide sidéral, ce sera avec Pauline Simonet, juste après la météo.